Et sûrement pas de médecin de famille. Mais nous, on peut vous prescrire de la vraie bonne...
Just watch me.
Toi, qui me quitte avec la levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour, pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à demain? Je t'en prierai, des croissants de soleil pour déjeuner.
Voici Aymeric Saint-Marseille.
Eh oui, bonsoir, bon mardi, j'espère que tout le monde va bien, tout le monde est en forme. Ça sent le printemps, ça sentait le printemps aujourd'hui, c'était agréable. Donc, grosse émission ce soir, en deuxième partie, on va parler avec Jeff Plante. Je veux entre autres parler de la mairie de Montréal. On va répondre en direct à un sondage ce soir. Donc, restez là. On va répondre à qui pourrait remplacer Valérie Plante. Avez-vous une petite idée, une opinion, un nom, une vedette, un sauveur? Qui pourrait remplacer Valérie Plante à la mairie de Montréal? Les élections municipales, c'est en novembre 2025-26. Donc, ça s'en vient quand même. Question du jour en ce mardi. Il y a 4 ans cette semaine déjà, l'Organisation mondiale de la santé décrétait que le monde entrait dans une pandémie de COVID-19. Vous en souvenez-vous? Il y a 4 ans cette semaine, donc, débutait la COVID-19. Et je vous pose la question, on va lire vos réponses un peu plus tard dans l'émission. Comment, avec du recul, parce que là, on a du recul, comment avez-vous perçu la chose? Comment avez-vous vécu la chose? Qu'est-ce que vous gardez comme opinion de tout ce qui s'est passé? Sûrement bonne ou mauvaise, etc. Donc, répondez à cette question-là. Qu'avez-vous gardé de ce souvenir qu'a été la COVID-19, les mesures, les confinements? On sait qu'au Québec, on a été les plus chanceux, on a été les plus confinés, on a été les plus restreints. Donc, on va prendre vos opinions un peu plus tard dans l'émission, dans le clavardage. Mais tout d'abord, là, je comprends, arrivez-moi pas avec, il y a un contexte, il y a une vieille amitié, il y a une historique. Non. Tout d'abord, le tata de la semaine, mesdames, messieurs, le tata de la semaine.
Moi, d'un vendredi après-midi, en pleine pandémie, je suis au centre-ville de Montréal, puis je le texte. Il y a personne à son bureau du premier ministre. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, débarque à mon bureau, j'arrive avec une bouteille de vin. Alors, on a passé un après-midi à parler de politique. Juste nous deux. Ouais. Il n'y a jamais personne qui va savoir ce qu'on s'est dit.
Mais non, mais c'est génial. Moi, j'adore ce genre
d'histoire. Il y a une tempête de neige. Il n'y a personne. Il y a les gardes du corps. Je suis dans son bureau. Je me souviens parce qu'il y avait une manifestation. Il y avait du pop-corn à terre. Entrée du pop-corn. Et là, on a passé l'après-midi. Puis après, j'ai dit, ben là, il faut que je m'en aille chez nous parce que tu as mis un couvre-feu. Il me dit, je te signe un papier. Non. Alors, j'ai trouvé un taxi. Ça, c'est arrivé. Et on a un moyen aussi d'échanger ensemble. Quand il arrive quelque chose, on a un moyen d'échanger ensemble. Alors,
Pascal Bérubé, député du Parti québécois, la vedette de son village, qui nous avoue là, dans un podcast, entrevue, je ne sais pas trop quoi, que lui, pendant que tous les Québécois étaient confinés et que tout le monde subissait les mesures draconiennes du gouvernement du Québec, ben lui, en tant que député de l'opposition, qui passe ses journées à nous dire que ce gouvernement-là, ça vaut pas de la marde, ben lui, un vendredi après-midi, il a texté François, puis ils se sont rencontrés au bureau du premier ministre, puis ils ont ouvert une grosse bouteille de vin, toi chose, alors que tous les Québécois fermaient leurs entreprises, alors que les enfants n'allaient pas à l'école, ben on a un député de l'opposition, puis le premier ministre, qui virait une brosse ensemble. On est dirigé par des caves, par des imbéciles, par des incompétents, par de la rapace, mesdames, messieurs, au Québec. Il va falloir qu'on le comprenne. C'est des caves. Et quand un député de l'opposition est assez faux-cul pour passer ses journées à nous dire que ce gouvernement-là, c'est de la chenoute. Puis après ça, on apprend qu'il vire des brosses avec le premier ministre le vendredi après-midi, alors que tout le Québec est en confinement. Ben, je suis désolé, mais on se fait prendre pour des imbéciles. Et on, en plus d'être des contribuables, on est des cons aussi, parce qu'on accepte ça d'une certaine façon. Donc voilà, Pascal Bérubé, déjà que je ne l'avais pas dans ma soupe, j'ai pas plus confiance en Pascal Bérubé qu'en Claude Morin pour le mouvement souverainiste. Mais c'est une vedette dans son village. Autre sujet ce soir, le budget du gouvernement du Québec. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité aujourd'hui. Le ministre des Finances, Éric Girard, qui a déposé le budget pour l'année financière du Québec 2024-2025. Et là, on apprend que le Québec a un déficit cumulé de 11 milliards de dollars pour cette année. Et la première chose qui est venue en tête de nos politiciens quand ils nous ont annoncé ça, ça a été de dire, ouais, là, il va falloir que le petit peuple se serre la ceinture. Les Québécois ne payent peut-être pas assez d'impôts. Les Québécois, ils peut-être ne payent pas assez de taxes, les Québécois. Tu sais, s'il leur reste 25 cents à la fin de la semaine, une fois toutes les charges payées sur leur salaire, c'est peut-être trop. Les Québécois, ils en ont peut-être trop à la fin de la semaine. Donc là, déjà, le plan de match gouvernemental pour aller regarnir les coffres de l'État, ça va être de piger dans les poches des petits contribuables. Mais on va tenter de nous vendre qu'on va essayer de couper dans le gras. Ça fait 25 ans au Québec que j'entends ça de nos politiciens qui vont couper dans le gras. Ça ne s'est jamais produit. Si vous croyez que le gouvernement du Québec est honnête quand il dit qu'il va tout d'abord couper dans le gras de l'administration publique, vous croyez à la fée des dents. Donc, c'est encore le contribuable, le Québécois, qui va travailler tous les jours, qui va payer la facture. La facture de quoi? La facture d'une usine comme Nordvolt, qu'on va financer à coups de milliards et de milliards de dollars, sans avoir d'acceptabilité sociale, sans avoir de BAP, sans avoir d'études de marché, sans avoir de garantie. C'est ça qu'on paye. C'est ça le déficit du Québec. Ce sont des investissements de niaiseux qui ont été pris par des gars comme Fitzgibbon. Et si ça avait été leur argent personnel, n'auraient jamais investi dans ce genre de projet-là. Mais comme c'est l'argent des Taouins québécois, on le fait, pas de problème. Ils paieront les caves. Et vous savez ce qui est fâchant, et j'en parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me confirmait la nouvelle, parce que j'ai fait confirmer cette nouvelle-là. Dans les ministères, dans les organismes publics, dans les organismes parapublics, ces gens-là ont des budgets annuels. Par exemple, là, je ne sais pas, moi, un organisme public a 10 millions de dollars pour son année. Mais là, arrive la fin de l'année financière, puis ils ont juste gaspillé 9 500 000, donc il reste 500 000 dollars. Cet organisme-là se sent obligé de gaspiller de quelque façon que ce soit le 500 000 dollars qui reste, parce que sinon, l'année d'après, ils vont se faire couper le 500 000. Fait qu'ils veulent pas. Fait qu'ils vont trouver n'importe quelle niaiserie, n'importe quelle justification pour gaspiller l'ensemble de leur budget pour pouvoir avoir le même budget l'année d'après. Donc, au lieu de favoriser les organismes publics, les fonctionnaires, à dire, regarde, si cette année, tu n'as pas besoin de l'ensemble de ton budget, gaspille-les pas au complet, c'est pas grave. L'année prochaine, on regardera ça. Non. Il oblige la fonction publique à gaspiller l'ensemble des sommes pour n'importe quoi, pour justifier leur existence et justifier leur budget. Si ce n'est pas une façon de gérer malhonnête, à l'os, je me demande ce que c'est. Donc, déficit de 11 milliards. Et pendant ce temps-là, ça va être encore une fois les mêmes qui vont s'enrichir et les mêmes qui vont s'appauvrir. Parce que plus ça va, moins il y a une classe moyenne au Québec. Il faut être conscient de ça. La classe moyenne qu'on a connue dans le temps de mes grands-parents, la classe moyenne québécoise qui avait un pouvoir d'achat, elle en a plus de pouvoir d'achat. Si aujourd'hui, tu perds ton appartement, ton loyer, que tu payais raisonnablement 800-900 $ par mois, et tu perds ce loyer-là pour X, Y, Z raison, t'essaieras de te retrouver quelque chose en bas de 1500 $. C'est impossible. En tout cas. Donc, budget du gouvernement du Québec qui a été présenté aujourd'hui. Et parlant de dépenses scandaleuses. Ça, c'est un article que j'ai trouvé aujourd'hui. Je vais vous lire le titre. Et c'est encore la même face de Crapet-Soleil, là. Pierre Fitzgibbon, qui est mêlé à ce dossier-là. Investissement Québec dépense des millions en fonds publics avec ses cartes de crédit, mais refuse de dire où. Donc, les fonctionnaires, les cadres d'Investissement Québec ont des cartes de crédit du ministère d'Investissement Québec, utilisent ces cartes de crédit-là pour leurs dépenses, dîner au restaurant, etc. Mais quand vient le temps de détailler ces dépenses-là, de justifier ces dépenses-là, ils disent non, nous autres, on n'a pas à justifier nos dépenses avec les cartes de crédit de nos fonctions, là. Désolé, mais moi, si j'ai le goût de manger du caviar un lundi midi, ben je vais manger du caviar un lundi midi. Donc, le 11 milliards de déficit qu'on vous a annoncé aujourd'hui, c'est aussi cette administration publique-là qui dépense mal l'argent des contribuables. Très mal l'argent des contribuables. Et une autre nouvelle qui m'a fait rire aujourd'hui, c'est celle-là. Dans La Presse. La Presse parle des contrats publics et dit « Le gouvernement a maintenant une stratégie pour les contrats publics. Le gouvernement de la CAQ montre les muscles. » Si c'est comme avec Justin Trudeau et le fédéral sur l'immigration, il faut dire qu'il n'y aura pas grand muscle là. Mais pour ce qui est des contrats publics, le gouvernement de la CAQ veut agir plus vite, donc moins de délais, et que ça coûte moins cher. On dit on veut construire de 20 à 25 plus vite et payer de 15 à 20 moins. Donc ça, c'est l'objectif du gouvernement du Québec. Bonne chance. Bonne chance. Parce qu'avec l'administration publique qu'on a au Québec, si tu veux lâcher un pet dans la cafétéria, il faut que tu aies une dérogation du ministère. On a une fonction publique québécoise qui est gonflée à l'hélium, qui a été engraissée parce que ça prenait de la place pour tasser, pour pacter les chums des gouvernements. Donc, quand un candidat là, perdait son élection pour le Parti libéral, on ne le renvoyait pas chez eux. Il avait été fidèle au parti. On lui donnait un job. Puis ça fait 30 ans que c'est systématiquement comme ça au Québec. Donc, on a une fonction publique qui est pactée de cadres qui ne servent à rien et une fonction publique qui est pactée de cadres dans les différents ministères qui se font des réunions, qui jasent parfois de yoga, qui vont aller dîner pour suivre une formation sur comment être mieux dans son corps. Qui vont faire des Legos, hein, on l'a vu dernièrement avec les gens d'Ambulance Santé. Donc, on prend les fonctionnaires, puis on leur fait faire des Legos sur une table. Puis parlez-nous de comment vous vous sentez, puis comment vous vivez ça, vous, d'être ambulancier. Puis... Donc, c'est ça. Donc, le gouvernement veut aller plus vite avec les contrats et que ça coûte moins cher. Laissez-moi rire. Je suis prêt à gager cher, très cher. Que c'est le contraire qui va arriver. C'est quasiment écrit dans le ciel. Bon, on va aller vous lire, les amigos. Qui est là ce soir? Lucie Tassé, comment ça va, vous? Patrick Aubry qui est là. Rénald, bonsoir. Valérie Plante est irremplaçable. Chantal, bonjour, de la grosse merde. Peur, parlez pas de moi, vous, là. Ah non, vous parlez de la COVID, OK, c'est bon. Sylvie Brûlé, les gens dorment encore trop. Malheureusement. Jesse Marasco, bonsoir. Sur la COVID-19, bon, vos réponses. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là aujourd'hui, qu'on fête un anniversaire cette semaine. Donc, confettis et trompettes, s'il vous plaît. Il y a 4 ans cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé décrétait que le monde entrait dans une pandémie de COVID-19. Fait 4 ans cette semaine. Donc, je vous demande comment vous percevez ça. François Duhamel, comment allez-vous? Chantal qui dit dégueulasse, etc., etc., etc. Jacques Dubreuil. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié de vous montrer. Caroline, vous faites penser à ça, vous. J'ai oublié de vous montrer ça. C'est comme ça que se répartit le budget du gouvernement du Québec. Un budget total de 157 milliards de dollars. Santé et services sociaux, 61 milliards 909 millions de dollars. Donc, pour l'exercice financier 2024-2025, on va injecter dans la santé et les services sociaux 61,9 milliards de dollars. Essayez demain de prendre un rendez-vous chez votre médecin. Essayez demain d'aller vous faire soigner. Essayez demain d'avoir quelque chose d'efficace dans le réseau de la santé, vous serez pas capable. Mais on y met quasiment 62 milliards de dollars par année. Me semble que ça nous donne le droit de chialer. Éducation, enseignement supérieur, 33 milliards. Service de la dette, quasiment 10 milliards. Famille, 8,5. Transport, 6. Emploi, solidarité sociale, 5 milliards. Conseil du Trésor, administration gouvernementale, 5 milliards. Affaires municipales, 5 milliards. Autre, je ne sais pas c'est quoi, autre, 21 milliards. Donc, 157 milliards de dollars pour un État qui tombe comme un Boeing du ciel. Mais bon, que voulez-vous? On n'a pas la population, malheureusement, au Québec, puis c'est sans vouloir être méprisant pour personne, mais on n'a pas la population au Québec qui est suffisamment mobilisée pour faire peur à quelque gouvernement que ce soit. La population est désorientée, désintéressée, désabonnée. Le monde, à la fin de l'année, pond le chèque d'impôts. Paye mes impôts. C'est ça qui est ça. Nouvelle à l'international aujourd'hui, Emmanuel Macron qui a décidé de s'impliquer. Ça, c'est un autre. Ça. C'est un autre qui est comique, ça. Emmanuel Macron qui a décidé de s'impliquer plus activement dans la guerre en Ukraine. Il a d'ailleurs fait voter un texte de loi à l'Assemblée nationale plus tôt aujourd'hui. Donc, les Français veulent maintenant s'impliquer activement et militairement parce qu'Emmanuel Macron l'a dit. Jamais, jamais, on va laisser la Russie gagner. Coûte que coûte, ça va brosser tout à l'heure. On écoute le reportage.
Macron se lance quand même dans des aventures irréfléchies sur le plan diplomatique.
Dans cette affaire, Emmanuel Macron a été terriblement isolé.
Je ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron dispose d'un blanc-seing. Je pense que l'escalade dans laquelle est engagé Emmanuel Macron est une voie irresponsable, dangereuse, qui inquiète les Français. Par conséquent, nous nous abstiendrons sur ce texte à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national s'abstiendra. Je vous donne deux lignes rouges. Première ligne rouge, l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne.
C'est pas dans le
nous
débat
sommes
cet après-midi.
Opposés, c'est contenu dans le texte, dans l'accord de sécurité qui fonde la déclaration du Premier ministre cet après-midi. Je suis et nous sommes opposés à toute forme d'élargissement. La deuxième ligne rouge, c'est ce principe de dissuasion active qui est évoqué dans le texte, qui prévoit précisément que entre les signataires de ce texte, à savoir la France et l'Ukraine, il y a un devoir d'assistance et notamment un engagement à la dissuasion active.
En cette affaire, Emmanuel Macron a été terriblement isolé. Au plan national, mais beaucoup plus grave, au plan international. Aucun dirigeant, occidentale n'a apporté le moindre soutien.
Ça c'est faux.
Les Allemands, les Baltes, le président tchèque,
oui. et d'autres encore, pardon.
Peut-être, mais pas les États-Unis.
Non, pas les États-Unis.
Qui sont les principaux soutiens, pas les Britanniques, qui sont le second soutien, pas les Allemands, qui sont nos partenaires. Les mots qui ont été tenus sont des mots très durs. Donc, cette position, elle a isolé la France, et cet isolement, il est dangereux, parce que derrière tout ça, quelle est la crédibilité de la parole française?
Pour ma part, je suis opposé à l'idée que la France cherche à être en quelque sorte le leader du camp de la guerre. Et je pense qu'au contraire, la France devrait prendre la tête du camp de la guerre.
Et comment on fait alors?
Eh ben, en créant les conditions pour que tout le monde vienne autour de la table et qu'on crée les conditions d'un accord de paix. Donc, et je pense que les conditions d'un accord de paix, elles sont en vérité sur la table, si on a envie de les chercher.
Lorsque l'intégralité des pays européens et les Américains eux-mêmes vont à l'encontre de la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il y a quand même, à un moment donné, une rationalité et une raison géopolitique. Et je ne crois pas que...
Vous êtes plutôt allemand que français, et je ne crois pas
que les Allemands, d'ailleurs. Il y a de nombreux dirigeants européens qui ont pris position, et les Américains eux-mêmes ont dit, depuis longtemps déjà d'ailleurs, que ils ne souhaitaient pas l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et qu'ils n'enverraient pas de troupes. Or, on ne peut pas, je crois, dire que ces différents pays n'ont pas été très clairs dans leur soutien à l'Ukraine. Eux-mêmes ont envoyé de l'argent, ont participé, ont parfois envoyé des armes.
Donc, reportage. Aujourd'hui, il y a eu vote de soutien à l'Ukraine. Le premier ministre français, un petit garçon là, qu'ils ont sorti de l'école, ils ont enlevé sa couche, ils ont montré à laver ses fesses puis ils l'ont mis premier ministre. En France, Gabriel Attal, il a dit, je cite, « Nous sommes à un moment de bascule de ce conflit. » Donc, au moment où on devrait, je pense, de façon responsable dans ce conflit-là, dire autant aux Russes qu'aux Ukrainiens, parfait. On va s'asseoir à une table, on va discuter. Les Russes ont pris ce territoire-là, là. On peut-tu arranger quelque chose? T'sais, on peut-tu arrêter ça? Ben non! C'est pas ça qu'ils veulent, les Occidentaux. Ils veulent une crise, ils veulent une guerre, ils veulent une raison d'exister. Emmanuel Macron veut être un chef de guerre. Il n'a pas juste marié sa grand-mère, il veut être un chef de guerre, Emmanuel Macron. C'est son rêve de ticu d'être un chef de guerre. Quand il était jeune, il jouait avec des fusils, il jouait avec des bateaux. Bien là, il veut le faire, mais en vrai. Fait que c'est les Français, les Européens, qui vont se réveiller un beau matin et qui vont manger une bombe nucléaire en pleine gueule. Et ce sera de la faute d'Emmanuel Macron et des autres dirigeants irresponsables qui auront participé à ça. Voyons donc, le président français dit, alors qu'il n'y a aucune façon militaire pour que l'Ukraine gagne, parce que tout le monde s'entend là-dessus, Emmanuel Macron dit, on ne laissera jamais la Russie gagner. Jamais la Russie va gagner, ça coûtera ce que ça coûtera, on va faire ce qu'il faut faire, mais ça va être ça, la Russie va perdre. OK, parfait. Donc, on va faire ce qu'il faut faire, mais la Russie va perdre. Ça va mal finir. Et ça va être de la faute d'Emmanuel Macron, entre autres. C'est incroyable. Et là, aujourd'hui, il fait voter les députés de l'Assemblée nationale. 500 cabochons, ou à peu près, à l'Assemblée nationale. 372 voix pour, 99 contre, 101 abstention, dont les députés du Rassemblement national. Mais tu as 372 députés sur 500 quelques qui ont dit oh « Oui, nous, on est d'accord avec ça, monsieur le président. Oh, oui. C'est pas vrai que la Russie va gagner, là, c'est pas vrai. On va défendre l'Ukraine, puis l'Ukraine doit rentrer dans l'Union européenne. Puis oui, c'est comme ça, puis c'est correct, puis ça finira comme ça finira. » Ça va mal finir. On met à la tête de nos pays, en Occident, des cabochons, c'est bon, des niaiseux, des gens à qui je ne ferais même pas gérer un couche-tard sur le corps de nuit, puis on les met à la tête de pays. Ben, surprenez-vous pas que ça va mal. Et tout ça a un contexte aussi. En ce sens où il y a des élections européennes qui arrivent au mois de juin prochain. Et là, tout le monde veut se montrer le plus anti-Russie possible, coûte que coûte. pas en train de vous dire qu'il est parfait, Poutine, puis tout ce qui. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'il y a un rapport de force. Et il y a un rapport de force qui est clair et net. T'as la Russie qui est gros comme moi, puis t'as l'Ukraine qui a de l'air du petit Jérémy, là, tu sais. Il est là, le rapport de force, là. Ah, t'es con. Ça n'a pas de bon sens. Des fois, je me pince. Oui. Peut-être c'est un mauvais rêve, tout ça. OK, quelques commentaires avant de prendre une pause. Christian Derry, qui est là, l'animateur du jeudi soir. Très bonne émission. Les États-Unis ont vendu plus de 1000 missiles de croisière de nouvelle génération à la Pologne, qui voudraient en refiler à l'Ukraine. Ces missiles ont une portée de plus de 800 km. Mais ça, c'est dangereux. Parce que si tu le donnes des missiles à des militaires, on se souvient quand même, il faut être honnête, là. Les soldats ukrainiens, c'est Papy, c'est Gérard, puis c'est Jérôme, là. C'est pas des grands militaires. C'est des gens qu'on a pognés, puis qu'on a dit, ben, viens-t'en. Prends un gun, mets-toi un petit casse-vert sur la tête, puis viens-t'en. On s'en va combattre la Russie. Juste répondre à André Couture pour l'information que vous demandez. Dans le tableau, oui, mais c'est ça, mais on parle en millions, mais à 61 000 millions, c'est 61 milliards. Donc, juste pour faire sûr qu'on se comprenne. Les US vont laisser tomber l'Ukraine, comme ils ont toujours fait. C'est pas la Russie qui va envoyer des bombes en France, je crois pas. Ils parlent à travers. Ben, c'est pas une question de... C'est que tu mets en jeu un risque qui n'en vaut pas la chandelle. Tu mets l'Europe à risque d'une guerre qui n'en vaut pas la chandelle. Puis pas que les Ukrainiens valent pas la chandelle ou qu'ils sont moins que vous et moi. C'est pas ça la question. C'est que la question, c'est un rapport de force. À un moment donné, ils ont fait le plus qu'ils ont pu pour défendre leur territoire. Ils ont fait le plus qu'ils ont pu pour ralentir l'armée russe. Bon, mais vient un moment où tu arrêtes, là. Ça suffit. C'est pas vrai qu'on va déclencher une guerre mondiale pour une couple de kilomètres en Ukraine. Je pourrais pas comprendre ça. Pierre-Yves Dubreuil qui est là ce soir. Escalade dangereuse en vue. Effectivement. L'Ukraine va disparaître. Ben, si ça continue comme ça, pas juste l'Ukraine. L'Ukraine est... Parce que... Mettons que Poutine se lève demain matin, je le souhaite pas, là. Mais mettons qu'il se lève demain matin et qu'il dit, moi, n'ai plus rien à serrer. On fait sauter tout ça, puis on ne sait pas quand même. Donc, juste de prendre le risque, juste de parler comme ça, juste de sortir sur la place publique, fais des négociations en privé, engueule-toi avec au téléphone, pas de problème avec ça. Mais que tu sortes sur la place publique, alors que tu sais très bien que tu es relayé dans tous les médias en Russie et que tu vas dire, toi, le président français, le mangeur de baguettes et de fromage brie, il s'en va dire, non, non, moi, là, Emmanuel, je viens de décider que la Russie ne gagnera pas. Ça coûtera ce que ça te coûtera, puis ça prendra ce que ça prendra, mais la Russie ne gagnera pas. Bon, on va envoyer l'armée française aider les Ukrainiens, puis on va mettre du gros cash en Ukraine, puis on va tout faire pour que la Russie ne gagne pas. Un, ça n'empêchera pas la Russie de gagner, si vous voulez mon avis, au final. Mais deux, ça va juste retarder la paix mondiale. Puis, s'il y a quelque chose dont on a besoin actuellement, c'est la paix dans le monde. La vraie paix. Parce qu'à un moment donné, la COVID-19, crise économique, guerre, bombe nucléaire, bordel. Le taux de suicide peut bien être élevé, Boutière. On fait une pause. Et au retour. Le seul, l'unique Jeff Plante. On va parler de la mairie de Montréal et on va répondre à un sondage en direct dans cette émission. Restez là.
Voici la triste histoire vécue d'un gars tranquille, d'une fille perdue. Il l'a connue un lundi soir chez des amis où il était venu faire ses devoirs. Écoutez-les, contez l'histoire. Je l'ai connu un lundi soir, c'est bien gravé dans ma mémoire. Elle m'a demandé si tu dansais. j'ai dit non, est allé mettre un record. J'avais signé mon arrêt de mort. Ginette, avec tes seins et tes souliers, à talons hauts, t'as mis la brume dans mes lunettes, t'as fait de moi un animal. Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau. Faites mon cours classique, je me souviens plus à quel endroit. J'aimais bien les mathématiques, mais grâce à elle, j'étais content. Je savais comment compter les pas dans un cha-cha. Ginette, Ginette, avec tes seins et tes souliers à talons hauts, comme il la brume dans mes lunettes, près de moi un animal. Ginette, fais-moi sauter dans ton cerceau. Jamais Ginette qui ne m'aimait plus, car un beau soir comme dans les vues, elle disparut. Je suis à où elle rendue, mon chum l'a vu, la danse tout nu dans un motel en bout de sorelle. Elle déshabillée mais à garder ses beaux souliers, c'est ben assez pour se faire aimer. Ginette,
Ginette,
Ginette, Ginette, Ginette, avec tes petits souliers à talons hauts, t'as mis la brume. Mes lunettes, t'as fait de moi un animal, Ginette. Fais-moi sauter dans ton cerceau. Wow, wow, wow,
wow, wow, wow. j'adore vos commentaires avec mes chansons. OK, je l'avoue, je suis un peu quétaine. Ginette, avant de le retrouver, Jeff Plante, je veux vous parler de deux enquêtes journalistiques indépendantes qui vont avoir lieu et qui sont en cours. Une concerne Revenu Québec et l'autre concerne la directrice de la protection de la jeunesse. Je vais y participer à ces enquêtes-là d'une façon ou d'une autre. Là. On m'a approché la semaine dernière, donc il va y avoir des reportages, des entrevues, etc. Mais si vous avez des histoires à raconter sur soit Revenu Québec ou soit la directrice de la protection de la jeunesse, on a déjà des reportages qui sont entrés, surtout par rapport à la DPJ, et je dois vous dire que c'est assez inquiétant tout ça, ce qui se passe pour ce qui est de la directrice de la protection de la jeunesse et certaines familles qui sont complètement détruites là, par ce système-là. Donc, on va en parler dans les prochaines semaines, mais dans les prochains mois, il y aura la sortie d'un vrai documentaire sur le sujet. Bon, on s'en va en Floride, dans le Sunshine State.
Oui.
Rejoindre Jeff Plante, comment allez-vous?
Jeff Plante va très bien, et vous-même?
Ben oui, ça va. Bien heureux de vous parler, merci d'être là. Encore une fois cette semaine, toujours fidèle au poste. Jeff, on commence par quoi? Le discours d'État de l'Union de Joe Biden, si on en croit les médias occidentaux de masse, là, écoute, il a fait ça comme un champion.
OK.
Moi, je m'excuse. Richard Latendresse fait dire que ça a été excellent.
Oui, c'est ça. Bon, c'est sûr, on s'est parlé, toi et moi, la semaine dernière, à la même heure. Le discours, normalement, devait commencer à 9h. Il n'a pas commencé à 9h. Joe Biden est en retard. Il y avait des petites manifestations. Puis il fallait quand même qu'il le remplisse de vitamines. Et parce que, écoute, le ton, je ne sais pas si tu l'as regardé, je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont regardé le State of the Union, ça faisait peur, là. Ça faisait peur. Biden avait les yeux exorbités, il avait l'air d'un homme fâché, puis il a eu le ton fâché tout le temps. Il s'en est pris évidemment à ses adversaires politiques, mais ça a été la première affaire qu'il a faite dans le State of the Union. Il a dit qu'essentiellement, Trump, c'est Hitler. Bon, ça commence bien. Tout le reste de son State of the Union, où il s'en est pris à tout le monde, dont la Cour suprême, parce que les juges de la Cour suprême étaient juste devant lui. Il veut dire, t'en prendre aux juges de la Cour suprême, c'est assez fort, c'est assez fort de café, là. Tu sais, c'est quelque chose, là. Même Trump, qui est supposé d'avoir pas de classe, qui est supposé d'être... Il ferait pas ce genre de choses-là, là, tu sais. C'était faites juste regarder le ton, les manières de Joe Biden. Évidemment, c'est un discours, il a lu un discours qui était écrit. Fait que, bon, c'est sûr que si des gens veulent donner un mérite quelconque physique à cet homme-là, je veux dire, non. Il a livré un message qui était écrit pour lui. C'est ça. Il a pas fait... vous pouvez dire ce que vous voulez sur Trump, mais Trump, c'est le maître de l'adlib. Trump, il lit pas des textes. Il lit pas un téléprompteur. Il fait de l'improvisation pendant une heure et demie. C'est sûr que quand c'est le State of the Union, c'est un peu plus scripté. Je le conçois, c'est bien sûr. Mais normalement, Trump va souvent sortir de son script pour aller raconter des anecdotes, des petites histoires, pour illustrer si vous avez suivi un petit peu la politique américaine. Puis je vous dirais même, évidemment, ça n'a aucun rapport avec l'appréciation ou la non-appréciation qu'on peut avoir du personnage de Donald Trump. Mais Trump, c'est un excellent conteur. C'est un... tu sais, ça pourrait être un stand-up comique, là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a le sens du timing. Il sait livrer un discours. C'est pas pour rien qu'il remplit des arénas et des stades plusieurs fois par semaine. Les gens viennent le voir pour une raison. Ce qui n'est pas le cas de Joe Biden. Joe Biden ne remplit pas d'aréna. Donc, ça, c'est autre chose. Mais encore là, les gens vont dire je suis coloré parce que je suis plus républicain que démocrate. Mais il n'y a pas Joe Biden, à part au début quand il a attaqué ses adversaires, puis quand il s'est adressé à la Cour suprême, il n'a pas parlé une fois de ce qu'il était pour faire, de ce qui était de ce qui ne va pas bien au pays, ce qu'on va faire pour l'arranger. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais. Et à chaque fois qu'il voulait adresser, qu'il a tenté d'adresser un problème, c'était pour le mettre sur le dos de la personne qui n'est pas nommée, c'est-à-dire Donald Trump. Faut quand même être assez effronté. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui pensent réellement que ça va mieux depuis 4 ans. Y a-tu vraiment des gens qui nous regardent, là, qui pensent que ça va mieux depuis 4 ans? Puis, n'oubliez pas, là, Joe Biden n'a pratiquement pas eu de crise de COVID. Là. Ça a commencé au début de son régime. T'sais, mais après ça, c'est Trump qui a été pogné là, un an et quelques là, avec la COVID. Là. C'est Trump. Puis bon, ben ça, c'est une shot qui ne pouvait pas caler. C'est un joker. C'était bon. Mais malgré tout, la seule question que les gens vont se poser, parce que pour une fois, les gens ont cette possibilité-là aux États-Unis, tu peux voter pour 2 présidents. Tu peux choisir entre 2 présidents. Les 2 ont un bilan. Et la seule question que tu dois te poser, c'est est-ce que je suis mieux maintenant ou est-ce que j'étais mieux il y a 4 ans? Comment était ma vie il y a 4 ans? Combien était le prix à la consommation? Combien je payais de loyer ou d'hypothèque? Combien coûtait mon panier d'épicerie? Combien coûtait un plein d'essence? Je comprends, c'est rapporter les choses essentiellement à l'argent. Mais c'est parce qu'il y a des choses que le gouvernement contrôle et il y a des choses que le gouvernement ne contrôle pas. T'sais. Bien que le gouvernement contrôle bien des choses. Essentiellement, je ne sais pas si tu as remarqué, Joe Biden n'a pas adressé une fois « Êtes-vous mieux maintenant qu'il y a 4 ans? » Il a essayé d'endormir tout le monde en disant « L'économie va bien. » Moi, là, c'est pas pour vous. Là,
parce non, mais c'est ça. Non, mais je veux juste un
ce
point.
Je pense aux États-Unis. Vous vivez au Québec et au Canada. Là, c'est oui. Sûr. Là.
Mais le point qui était ramené dans les médias suite au discours sur l'état de l'Union de Joe Biden, c'était de dire les médias ici, je comprends, puis je me fais un peu l'avocat du diable, puis c'est voulu, là, mais c'était de dire l'économie américaine, il y a un an, tous les économistes nous disaient qu'on allait entrer dans une récession, dans des perturbations majeures, et malgré les prévisions économiques, les États-Unis s'en tirent relativement bien au niveau de l'inflation, entre autres.
Je veux dire, évidemment, c'est une année électorale, Émeric. Fait que c'est sûr que, je ne sais pas si tu comprends, on s'arrange pour placer une partie de l'économie pour la rendre plus sexy pour les électeurs, tout en endettant les États-Unis. Tu comprends? C'est même pas subtil. les gens, puis en Floride, puis pourtant la Floride, c'est pas un État frontalier, peut-être un petit peu avec Cuba, là, avec bon, mais le gros sujet de conversation partout, c'est l'immigration. L'immigration illégale. Pas l'immigration comme telle. J'en suis un immigrant aux États-Unis. Légal. Mais l'immigration illégale, ça, là, ça les rend complètement... D'ailleurs, regarde ce qui se passe, parce qu'au moins les gouverneurs républicains ont commencé à comprendre la game comme faux. Ça a toujours été un problème au sein du Parti républicain, c'est qu'ils ne jouaient pas toujours très bien la game politique. Ils ont dit « OK, alors, comme ça, vous voulez avoir une ville, vous voulez que ça soit un sanctuaire, New York? Vous voulez que ça soit un sanctuaire, Chicago? Vous voulez que ça soit un sanctuaire? OK. » On va vous arranger ça. On va les amener chez vous, les immigrants. Non, on va les amener chez vous. C'est facile parce que normalement, eux ne sont pas au sud. Fait que eux ne vivent pas la crise des immigrants. Puis quand je dis la crise des immigrants, imaginez-vous pas que c'est tous des Mexicains, là. Ça vient de partout. Ça vient des pays arabes, ça vient d'Asie, ça vient de Chine. C'est très bien qu'il y a de nombreux terroristes se sont infiltrés. Ils vont s'infiltrer aux États-Unis, là. Là, c'est la politique de porte ouverte. Laisser rentrer n'importe qui. Puis, si vous avez écouté l'État de l'Union, on a parlé de cette jeune fille qui a été assassinée, c'était où, en Géorgie, récemment. Puis, évidemment, Joe Biden a été pris. Moi aussi, mon fils est mort. T'as peur, là. Arrête de ramener ça à toi, Calis. Évidemment, cette jeune fille avait été tuée par un immigrant illégal. Puis là, il a dit le mot « illegal ». On comprend que chez les démocrates, dire le mot « illegal », c'est tabou, ça se dit pas « illegal ». On dit « undocumented ». Hein? Ça, c'est le mot à la mode là, que les Nancy Pelosi de ce monde utilisent, les « undocumented ». C'est pas « undocumented », t'es un immigrant illégal. T'es un immigrant illégal. T'es pas rentré légalement aux États-Unis. T'as pas fait la démarche comme elle doit être faite. Donc, t'es un immigrant illégal. Et c'est un immigrant illégal qui a assassiné cette jeune fille en Géorgie. Évidemment, personne ne voulait... Biden s'est excusé non pas à la mère de cette jeune fille-là qui a été assassinée par un illégal, il s'est excusé à la famille de l'assassin, on va dire le présumé assassin, de l'avoir appelé illégal. Faut le faire en tabarnak, Amérique, là. Faut le faire, là.
Incroyable, incroyable.
C'est là que sont les États-Unis sous Biden. Et ça, je peux te dire que je regarde un petit peu partout, puis pas juste chez les sources républicaines, ça a vraiment pas passé. Il y a des choses que vous avez beau trouver que Trump est un malotru, est un pas fin, jamais il ferait ce genre de choses-là. Jamais il manquerait de respect à une genre de famille comme ça, ou une famille de militaires, ou une famille. Jamais, jamais. Bien au contraire, il les a en plus haut respect. Mais ça dit tout de comment Biden et l'establishment, je ne dirais pas tous les démocrates, parce que les démocrates sont tout à fait corrects, parlables et tout ça, mais l'establishment démocrate voit la population. La fameuse classe moyenne, les gens ordinaires, ceux qu'on appelle avec un peu de mépris les petites gens. Tu sais, les gens des campagnes, les gens simples, les gens, tu sais, ceux dans le fond qui nourrissent l'Amérique. Là, tu sais.
Ah oui.
C'est ça. Fait qu'ils les regardent un petit peu de haut. C'est ça.
Mais je voyais, j'ai des questions pour toi, Jeff, parce que tu connais le dossier beaucoup plus que moi, mais je voyais Kamala Harris en arrière de Joe Biden là, qui s'époumonnait à l'applaudir. Est-ce qu'elle est automatiquement la candidate à la vice-présidente, la vice-présidence plutôt pour novembre, ou est-ce qu'il pourrait pas nommer quelqu'un d'autre, étant donné qu'elle est tellement impopulaire? On n'a jamais vu ça, une vice-présidente,
oui,
ou un vice-président.
Oui, théoriquement, il n'est pas obligé. Mais t'imagines le message que ça enverrait, ça serait ouais, terrible.
La faiblesse. T'sais,
il n'est pas dans la même position que Trump, où c'est sûr que Trump n'ira pas rechercher Mike Pence, là, ça c'est sûr.
Non.
Pour plein de bonnes raisons. Ouais. Mais lui, c'est parce qu'il y a un... c'est le incumbent, là, tu sais. Fait que... Puis Kamala Harris, oublie pas une affaire, c'est que quand... Oui, tu vas chercher quelqu'un à qui tu es supposé avoir confiance comme vice-président, mais comment c'est fait le système, autant chez les démocrates que chez les républicains, Normalement, tu vas chercher un adversaire, mais que tu es capable de faire rentrer dans ton cadre, qui ne te poignardera pas trop, qui va te suivre, mais qui va surtout t'amener une nouvelle clientèle.
Parce que l'affaire là-dedans avec Harris, c'est qu'elle est... Ouais. Parce que moi, j'entendais beaucoup dans le discours de l'État de l'Union, le « four more years », donc 4 ans de plus. Moi, j'ai de la misère à voir Joe Biden survivre une année de plus avec son incontinence et son incompétence, mais
elle est
potentiellement la prochaine présidente des États-Unis si, malheureusement, Biden était réélu. Là. Elle est potentiellement la prochaine. Puis on parle d'un taux d'approbation de quoi, 20 %?
Il y a une publicité qui roule présentement où tu vois, je ne sais pas où est-ce que je l'ai vu, mais je me demande si c'est pas sur un des grands réseaux américains, hein, où tu vois... Tu vois Joe Biden dans un de ses célèbres moments d'égarement, puis que tu sais qui a de l'air d'une balayeuse Roomba qui se promène un peu partout, qui frappe le mur, tout ça. Puis qui est pas capable de finir une phrase, puis une autre phrase, puis une autre phrase, puis qui est tout mêlé, puis c'est difficile pour lui. Puis, c'est sûr, c'est une publicité style électoral. Puis la publicité dit essentiellement on n'est même pas sûr qu'il va finir le show, là, tu sais. Puis en arrière, t'entends Kamala Harris rire, tu sais, avec son rire niais habituel. Tu sais, c'est ça, là. Tu sais, quand Harry a ses propres blagues tout le temps, là. C'est ça. Fait que ça rappelle aux gens que, oubliez pas, là, c'est elle qui est comme la seconde là, tout de suite après. Là. Vous allez être pogné vraisemblablement avec elle. Tu sais. Parce que c'est un stratège républicain, c'est sûr, j'adresserais cette question-là.
Mais, écoute, mais il semble que dans le tapis, là, quand tu as une vice-présidente aussi impopulaire, joue-la. Mais là, le dernier sondage que j'ai vu ça passer, puis aux États-Unis, les sondages, ils ont des échantillons assez importants. Il me semble que Trump est en avance de 5-6 points. Là.
Généralement, ce qui veut dire normalement beaucoup plus que ça, parce qu'on sait que c'est comme avec les conservateurs au Canada.
Oui, le monde a de la misère à dire qu'ils vont voter pour...
Ben, c'est pas ça. C'est parce que tu sais que tu peux te faire intimider, harceler si tu dis que tu sais comment ça marche, là. Si tu dis que t'es conservateur, fait que les gens préfèrent rester discrets sur le sujet. Puis les seuls qui disent vraiment qu'ils votent pour Trump, là, c'est les gens, genre moi, là, tu sais, qui sont très vocaux, là. Mais sinon, les gens veulent juste pas avoir de troubles, tu sais, comme dans l'isoloir. Je pense que l'inquiétude des gens, puis on le voit là, avec les beaucoup de choses commencent à sortir, entre autres, sur comment les élections de 2020 ont été volées. Parce que moi, je suis vraiment d'avis que les élections ont été volées. Et tu sais, pour la simple raison, pensez, regarde, même Elon Musk est sorti aujourd'hui. Bon, certains vont dire, ah ben oui, Elon Musk, c'est un conservateur. Pas en tout. Elon Musk, c'est un gauchiste, OK? Mais c'est un gauchiste qui est plus capable des crosses du Parti démocrate, OK? Mais c'est plus un gauchiste qu'un conservateur. Je vous le dis, là. Elon Musk, regardez comment il est depuis récemment, là, depuis bien des années. Mais c'est un genre de vieux démocrate, dans le sens noble du terme. Vieux démocrate dans le sens, tu sais, que ça me dérange pas que tu aies des politiques un petit peu plus à gauche, un petit peu, c'est pas correct, ça, tu sais. Mais qui n'aime pas les magouilles puis les tu sais, ce genre de crosse qu'on fait depuis plusieurs années, le Parti démocrate, puis qui dit, regarde, qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous le dire en anglais parce que le tweet est en anglais. Elon Musk says, far-left Democrat refuse to require photo ID to vote because the failure to require photo ID to vote obviously makes it impossible to prove voter fraud. Fait que, c'est sûr, c'est ça. Puis à chaque fois, dans toutes les démocraties occidentales, ça te prend un papier d'identité pour aller voter.
Non, mais traduis-le, là, tu sais, c'est par rapport à la photo d'identité avec photo, là.
Lui, tu sais, les démocrates vont toujours dire, non, c'est raciste de demander un ID pour aller voter. C'est raciste. Ouais. Pourquoi les Noirs n'ont pas d'ID? C'est ça que tu dis? Les Latinos, ils n'ont pas d'ID? Ils n'ont pas de papier d'identité? C'est quoi? Donc, tu es en train de me dire que tu veux faire voter les illégaux, essentiellement.
Ben oui, bien donc.
Parce qu'évidemment, des fois, je vais m'ostiner sur Facebook et ailleurs avec certains journalistes, dont un que j'aime bien picosser parce que je le respecte au niveau personnel. Là. C'est Michel Séauger. Okay? Mm-hmm. Mais Michel Séauger, c'est plutôt un nationaliste, style péquiste, gauchiste et tout ça. Mais qui écrit comme à la Richard Latendresse, à la tout le monde, là, qui écrit des énormités. Encore cette semaine, il écrivait, tu sais, lui, il va toujours écrire « Oui, mais les fraudes, ça n'a jamais été prouvé. » Ben oui, ça n'a jamais été prouvé. Pour la simple raison, je veux dire, tu fais voter des illégaux sans papier d'identité. Essaye pas de dire que tu reçois les votes. À partir du moment où tu reçois les votes, ils sont dans la boîte. Tu peux pas identifier Aymeric Saint-Marseille à ce vote-là. Tu peux pas identifier Jeff Plante à ce vote-là. Une fois que vous l'avez crissé dans la boîte, vous l'avez crissé dans la boîte. C'est la même chose, OK, qui a... Puis pourtant, c'est drôle, hein? Au Québec...
Non, mais ton nom n'est pas écrit... Non, mais Jeff, ton nom n'est pas écrit sur le bulletin de vote, mais au moins, par exemple, au Québec, quand tu vas voter, tu dois apporter un document d'identité officiel.
Non, mais pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a quelque chose de très, on va dire, courant chez les nationalistes québécois, comme de quoi on se serait fait voler le référendum de 95. Et tu sais quoi? C'est dans le domaine du possible.
Oh oui,
c'est dans
oui.
le domaine du possible. Puis je pense qu'il y a eu une bonne partie de ça. Plusieurs journalistes très, très anti-Trump, à la Normand Lester, sont de ceux qui croient que le référendum a été volé, mais qui te traitent avec le plus haut mépris quand tu dis que Donald Trump a été volé. C'est quand même
fort. Très bon exemple, ça. Très bon exemple. Très, très bon exemple. Les mêmes gens qui croient que le référendum de 95 a été volé sont pas prêts à accepter l'idée que l'élection américaine aurait pu être volée.
Ben, puis pourtant, de plus tu regardes, puis écoute, tu sais, ce qu'ont appelé les Twitter files, avez-vous vu c'était quoi les Twitter files? Qu'est-ce que Mac Taibbi a sorti? C'est énorme tout ce qu'ils ont fait pour faire taire l'histoire d'Hunter Biden. Tu sais qu'il y a eu plus que 10% des Américains qui ont dit si on avait su par rapport à l'histoire d'Hunter Biden qu'on a essayé de faire passer comme une fausse histoire. Non, c'est les Russes qui envoient ça pour essayer de faire du meddling d'élection. Là, tu sais. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Puis évidemment, quand tu disais ça, tu étais coupé sur Facebook, tu étais coupé sur Twitter, puis on sait que Facebook, Twitter à l'époque, était administré par des ultra-gauchistes très, très démocrates. On sait que Zuckerberg de Facebook, c'est un fait, c'est pas une conspiration, a donné illégalement des centaines de millions de dollars, dans des PAC et des super PAC démocrates, illégalement, qui ont censuré. Parce que, oublie pas, il y a quelque chose aux États-Unis qui n'existe pas au Canada, c'est le premier amendement. Le premier amendement, c'est que tu as le droit de t'exprimer. Même si ton opinion, aussi impopulaire soit-il, tu as le droit de le transporter. Tu ne peux pas censurer les gens. Et pourtant, Twitter, c'est un média. Facebook, c'est un média. Tu remarqueras qu'ils font tout pour ne pas être reconnus comme un média. Mais pourtant, ils ont censuré. Et ça, tu sais, écoute, il y a beaucoup de choses qui sont en train de ressortir parce qu'évidemment, tu sais, il faut que tu fasses les preuves de tout ça. Puis tu sais, imagine-toi, on parle encore du référendum de 95 comme de quoi il aurait été volé. Je vous rappelle que ça va faire 30 ans.
Oh oui.
Okay? Ça va faire 30 ans et on en parle encore. Fait que tu sais, quand on nous dit que l'élection de 2020
Mais ton parallèle est excellent, je l'avais jamais entendu. Non, mais je l'avais jamais entendu. C'est les mêmes journalistes, les mêmes militants qui sont prêts à mettre la main dans le feu que le référendum de 95 a été volé, sont les mêmes qui vont nous dire qu'ils sont prêts à mettre la main dans le feu que l'élection de 2020 aux États-Unis n'a pas été volée pour Trump. Donc, à un moment donné, ils sont incohérents, ces gens-là, ou ils ont une opinion à géométrie variable. Là, tu sais.
Alors que les exemples sont tellement nombreux, évidemment, faut pas que tu sois comme ça, là. Faut que tu regardes. Puis, tu sais, des fois, il faut que tu regardes des choses que tu veux pas voir. Je vais te dire une chose. Peut-être les gens savent pas ça de moi. Tu sais avec qui, Aymeric, que je suis le plus critique? C'est avec les gens de ma propre équipe, c'est-à-dire les gens de droite, les conservateurs. Je suis beaucoup plus critique des conservateurs que je vais être critique des libéraux, des péquistes et devant. Je vais être beaucoup plus critique de ma propre équipe parce que je trouve, Puis comment je pense, c'est qu'on doit être, on doit laver plus blanc que blanc. Si on veut être digne de la confiance des gens, que les gens mettent en nous, il faut qu'on lave plus blanc que blanc. Sinon, on n'est pas mieux qu'eux autres. Et je vais regarder avec beaucoup d'intérêt la campagne de Poiliev pour être sûr que ça ne sera pas une campagne qui sera, on va dire, salie par des... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, j'étais pas le, il vient de mourir, je n'étais pas le plus grand fan de Mulroney, bien qu'on peut lui donner quelques réalisations importantes pour le Canada. Puis, on ne peut pas le blâmer pour avoir voulu rentrer le Québec dans la Constitution, dans, comme il disait, dans l'honneur et l'enthousiasme. C'est bien correct, puis je donne ce mérite-là à Mulroney. Mais hormis ça, puis hormis le fait que c'était un politicien très, très redoutable, qui avait beaucoup d'amitié, puis tout ça, puis bon, on connaît l'histoire. Je veux dire, c'était aussi un crotté, là. C'est quelqu'un qui faisait des tours de passe-passe par-dessus des tours de passe-passe à la libérale. C'était pas mieux qu'un politicien libéral.
Non, non, au final, non. C'est combien qu'il avait reçu de... Mulroney avait reçu combien de millions de...
Oui, c'était beaucoup. Bien, évidemment, on ne l'aura jamais su vraiment. Ouais, là, mais l'histoire d'Herbert, oui. Mais c'est ça. Je comprends que... Mais tu sais, tu ne peux pas mêler... Trump n'a jamais été mêlé dans des genres de scandales comme ça. Tu as remarqué, quand il administrait les États-Unis, là... As-tu des histoires comme ça? Des pots de vin? Non, de toute façon. Il est milliardaire. Tu sais, fait que, parce qu'il
a besoin. Mais pas juste de... ça. S'il y a une personne aux États-Unis qui a été enquêtée sur...
En long, en large, en travers, c'est bien...
Par les journalistes et par la justice, c'est Donald Trump. Donc, tout ce qu'on aurait eu à savoir, on l'aurait su. Écoute, je veux te parler d'une chose avant de terminer. D'un journal que tu aimes beaucoup et d'une mairesse que tu aimes encore plus. La presse nous offre un sondage sur qui pourrait être le candidat ou la candidate contre Valérie Plante, parce que pour les gens qui ne savent pas, Jeff a été conseiller municipal à Montréal pendant 2 mandats sous Pierre Bourque, fin des années 90, je ne me trompe pas. Donc, dans la liste qui suit, là, Sophie Brochu, l'ex-PDG d'Hydro-Québec, Mélanie Joly, Denis Coderre, Pablo Rodriguez, Michel Leblanc, Dominique Anglade, Aref Salem, Balarama Holness, Alexandre Taillefer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a à tes yeux, une chance ou, je ne sais pas, le charisme pour battre Valérie Plante à la prochaine élection?
Il y en a une qui elle se voit... Moi, ça me fait toujours rire. Tu sais, les ambitieux. T'as nommé Brochu, là. Ça, c'en est une, là. Son plus haut fait d'armes à Brochu, c'est quoi? C'est d'être ambitieuse. Hein, qui a été à la Chambre de commerce, qui a été, je pense, à Gaz Métro, qui a été à Sun Life. A fait le tour des conseils d'administration un peu partout. Puis, sa grande qualité, c'est d'être dans des conseils d'administration. OK? Mais c'est un peu comme Mélanie Joly. C'est quoi ta grande qualité, Mélanie Joly? Oui, mais elle a été candidate à la mairie. Oui, mais OK, mais c'était quoi son spiel, là? C'était quoi son... Ben non, mais elle a été... OK, mais... Oui, mais elle a été sur un board de... OK, mais c'est quoi ta qualité? C'est quoi ton...
Je ne répondrai pas à ça parce que je vais me faire poursuivre en diffamation. Mais y a, dans la liste, il n'y a personne là-dedans là, qui, à tes yeux, pourrait faire un bon candidat à la mairie de Montréal contre Valérie Plante.
Écoute, je connais Aref Salem parce qu'il a été élu quand j'étais élu. Je le connais. Mais tu sais, je ne suis pas en train de dire qu'Aref serait cette personne-là. C'est un politicien qui est très habile, mais je ne pense pas qu'il ait le profil, la personnalité pour ça. D'ailleurs, je suis sûr que dans le chat, personne ne connaît vraiment Aref Salem. Mais qui est un gars très sympathique dans le coin de Ville-Saint-Laurent. Bien correct, tu sais, mais c'est ça. Balarama Holness. Je veux dire, bon, je ne suis pas sûr qu'il soit bien apprécié des French Canadiennes.
Non.
Tu sais, je veux dire, le gars qui voulait faire l'équivalent du Parti Égalité.
Mais où je voulais en venir avec toi, d'abord, s'il y a personne là-dedans, mais où je voulais en venir, c'est qu'on a un méchant problème parce qu'on a Valérie Plante à la mairie de Montréal, qu'il faudrait sortir à coups de pied dans le cul politiquement. Mais on n'a personne dans les millions de citoyens de la ville de Montréal qui est assez pesant, imposant, populaire, charismatique, ambitieux pour la battre aux élections. On a un méchant problème de société.
C'est ingrat, la politique à Montréal. Hein? C'est ingrat parce que la plupart qui y vont se brûler. ceux qui ont mon âge vont se souvenir, tu sais, quand Pierre Bourque s'est présenté, il venait. C'était un haut fonctionnaire de Montréal qui avait réussi à monter son profil un peu parce qu'il avait tenu tête à Jean Doré à un moment donné par rapport au biodôme et tout ça. Puis les médias avaient un petit peu boosté la chicane, on va dire. Puis ça avait boosté le profil de Bourque. Puis Bourque était un bon administrateur, tu sais. Je ne peux pas dire le contraire. J'étais dans son équipe pas pour rien. C'était un gars qui était un conservateur fiscal, on va dire ça comme ça, qui faisait ce qu'on appelle de l'austérité joyeuse. C'est comme ça qu'il aimait appeler ça. Puis c'était pas mal ça, Bourque. Mais tu sais, après le premier mandat de Bourque, moi, je suis arrivé au deuxième mandat de Bourque. Quand j'ai été élu, c'était au deuxième mandat. Et beaucoup de gens de son équipe, à l'époque, c'était le parti, c'était Vision Montréal. Beaucoup de gens de Vision Montréal avaient quitté Bourque parce qu'il y avait une façon d'administrer qui était peut-être un petit peu autocrate, à la Jean Drapeau, bon, tout ça. Puis c'était pas tout le monde qui était féru de ça. Et puis là, Jean Doré, qui s'était fait donner une volée par Pierre Bourque, a commencé à sentir un peu le parfum de la revanche. Fait qu'il est arrivé un sondage, à peu près un sondage comme on vient de voir. Okay? Et puis, je pense que c'était le Journal de Montréal, si je ne me trompe pas, qui avait sondé les gens sur probablement une dizaine de personnalités. Bon, qui peut battre Pierre Bourque? Puis qui... Mais il n'avait pas posé la question comme ça. Il avait posé la question, quel visage vous reconnaissez là-dedans? Fait que c'est sûr que celui qui était arrivé en tête... C'était Jean Doré, parce que tout le monde connaissait Jean Doré. Mais c'est pas parce que tu connais Jean Doré que tu vas voter pour Jean Doré. Mais Jean Doré étant la personne qu'il était, c'est-à-dire très, très imbu de lui-même, parce qu'il était vraiment comme ça, Jean Doré. Il avait une très haute estime de lui-même. Lui, il avait vu ça comme les gens me redésirent là, à Montréal, puis je vais venir sauver Montréal. Il a mangé à voler de sa vie, parce que même son ex-parti, qui était le RCM, voulait même plus l'avoir comme chef. Fait qu'il a refondé un parti qui s'appelait, je pense, Équipe Montréal dans ce temps-là. Fait que c'était, tu sais, il y avait, puis ça avait fait une bataille contre le RCM, puis contre, souviens-toi, Duchesneau qui s'était présenté aussi contre nous autres. C'est sûr que ça nous a aidé un petit peu, l'équipe de Bourque, parce que le vote a vraiment été divisé et on a gagné la mairie avec à peu près 33 à 35 % des voix. Moi, j'ai gagné chez nous avec 33 % des voix. Mais avec la division des votes, écoute, j'avais gagné mon élection, je m'en souviens, contre celui qui était supposément la vedette de Duchesneau, qui était essentiellement le chum d'André Boisclair. Puis je l'ai battu par 19 votes. Puis Boisclair ne l'a pas pris. Puis depuis ce temps-là, il m'haït comme ça se peut pas. Fait que c'est pour ça qu'on a développé cette amitié-là. Ben oui. Puis, juste pour la petite histoire, la deuxième fois, quand on était un contre un, c'est-à-dire le candidat de Vision Montréal, c'est-à-dire moi, et le candidat de Gérald Tremblay, j'ai gagné par 66 %. T'sais, fait que ça, t'sais, j'étais l'incombant, là, t'sais, fait que ça a bien été. Oublie pas une chose. J'étais un conservateur. T'sais, des fois, j'aime ça me lancer des fleurs quand j'ai mérite, là, t'sais. Je suis un conservateur qui a gagné son élection à 66 % dans le quartier, dans le comté le plus à gauche du Québec. Ouais. Je vous rappelle que c'est le comté de Gabriel Nadeau-Dubois, c'est le comté de Françoise David.
Okay?
Mais quand tu t'adresses, puis je peux même te dire comment que j'ai gagné, Émeric. Parce que j'ai gagné avec la façon la plus simple, la plus imbécile et celle que j'aimerais que les conservateurs utilisent. Tu sais que Montréal, c'est une ville, il y a beaucoup de locataires à Montréal. Il y a beaucoup de locataires. Puis dans un quartier comme le mien où j'habitais, dans Rosemont, Petite Patrie, ben, tu sais comment ça marche. Tu as les locataires en haut, tu as les propriétaires en bas. Je te le donne en mille, là, d'après toi, là. OK? On était l'administration, tu vas comprendre parce que ça a beaucoup d'implications ce que je dis. On était la première administration dans l'histoire de Montréal et encore la seule qui a jamais monté les taxes. Okay? Qui est-ce que tu penses que, où est-ce que tu penses que j'allais faire mon porte-à-porte?
Des propriétaires.
T'as tout compris. Alors, pourquoi je perdrais mon temps? C'est plate à dire, là. T'sais, oui, c'est du wedge politique, là, mais c'est la réalité. Pourquoi je perdrais mon temps à aller parler à des locataires qui sont des gens qui habituellement ne votent pas trop?
Ben, surtout pas au municipal, non?
C'est ça. Alors que les propriétaires, je sais qu'ils vont voter, puis je sais que c'est eux qui reçoivent le compte de taxes. Alors, qui est-ce que tu penses que j'ai été voir? Qui est-ce que tu penses que je sollicitais? Qui est-ce que tu penses que je passais du temps avec? T'sais, je ne dis pas que je ne m'occupais pas pendant que j'étais élu des locataires, c'est pas ça. Mais quand tu veux gagner ton élection, je vais gagner mon élection. Où est-ce que je peux gagner mon élection? Mais beaucoup de politiciens, s'imaginent, ont un genre de complexe de Dieu qui pensent qu'ils peuvent convaincre tout le monde. Puis la réalité, c'est que c'est pas vrai. Tu peux pas, tu sais, essaye pas de convaincre du monde que tu peux pas convaincre. C'est niaiseux de même. Puis je sais que les locataires, je dis pas que tu peux pas les convaincre, mais comme on dit en latin, c'est un tough sell. T'sais, parce qu'eux, ils ne voient pas les implications des taxes. C'est sûr que maintenant, avec le prix des loyers à Montréal, ils commencent à le sentir, l'effet. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que le problème, c'est que ça n'arrive jamais sur le coup. Ça arrive, puis étant donné nos fameuses lois au Québec, hein, nos fameuses lois qui disent que quoi? Qui disent que tu ne peux pas augmenter le loyer. Oui, tes taxes municipales en beau, tu ne peux pas augmenter le loyer plus que ça. Fait que, tu sais, pourquoi tu penses que plus personne veut devenir propriétaire? Pourquoi tu penses qu'autant de gens quittent le Québec? Puis je le lisais, tu sais, ce midi, parce que je suis encore membre de groupe Facebook de mon ancien coin, c'est-à-dire de Saint-Lazare, Vaudreuil, tout ça. Puis je lisais quelqu'un qui disait quelque chose de super intéressant, qui disait, écoute, je veux louer, j'ai un chien. Puis les gens veulent pas me louer parce que j'ai un chien. Là, tu dis, ouais, c'est vrai, c'est pas cool. Mais en même temps, tu le sais comme moi, que si t'as un chien, il y a des grosses chances qu'il va démolir un peu la maison. Je veux dire, c'est ta propriété. Je le sais, j'ai un chien, puis je le sais qu'est-ce que le chien a fait à ma maison.
Non, je comprends. Master, pour être un locataire parfait, il ne faut pas être d'enfant, pas de mari, pas de femme, pas de chien, pas de chat, pas de poisson,
non,
pas de...
Non, il y a plein de gens qui répondaient, « Oui, mais t'as rien qu'à demander un dépôt de sécurité. » Partout dans le monde, La maison où je suis présentement, elle est louée, là.
Non, mais c'est pas légal au Québec, un dépôt de sécurité.
Exactement. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça veut dire que la seule façon que je vais pouvoir me reprendre si un chien gratte les portes, démolit les barres de fenêtres ou des choses comme ça, je suis obligé de poursuivre le locataire, d'aller en cours contre le locataire.
Régie du logement. Oui.
Puis, régie du logement. Pense-y, là.
J'ai dit logement, c'est un autre.
Ben, c'est ça. Alors que si j'avais demandé l'équivalent au moins d'un mois, comme par exemple, où est-ce que j'habite, puis je pense que c'est la norme aux États-Unis, c'est que normalement, tu te donnes un dépôt de sécurité qui est l'équivalent d'un mois de loyer.
Toi, tu as donné un mois de loyer avant de rentrer?
Oui.
Ben, un mois de loyer plus ton premier mois, ça fait deux mois en rentrant.
Oui. Oui. Et dans le fond, le propriétaire peut demander, puis c'est pas rare qu'il demande deux mois de loyer. Puis c'est comme ça. Puis si t'es pas content, va chier. C'est pas à toi la maison. C'est pas à toi la propriété.
Non, mais un mois de garantie, c'est pas exagéré non plus. Je comprends qu'il y a des gens qui en arrachent un peu, là, mais un mois de garantie, c'est quand même pas exagéré.
Je pense pas.
Non.
Je pense pas. Mais encore une fois, c'est ça qui dit qu'au Québec, malheureusement, tu sais, bon, oui, l'accès à la propriété, les propriétaires n'investissent pas, c'est des taudis. Mais oui, mais regardez les lois que vous avez. Tu sais, avec les lois que vous avez, vous forcez les propriétaires à ce qu'ils soient des comment on dit ça en français, des slumlords, là, tu sais.
Non, puis j'écoute en plus une émission de ce temps-là, ça s'appelle Proprio en otage. Écoute, t'as avoué des affaires, c'est incroyable, j'aimerais pas être dans leur peau. Salut, mon Jeff.
Ouais, t'es pogné avec ça.
Ouais, c'est assez incroyable. Mais que voulez-vous? Avoir des locataires au Québec, ça veut dire accepter de ne pas être en mesure de mettre quelqu'un dehors, même s'il ne paye pas, même si ici, même si ça, tu ne seras pas capable de le mettre dehors. Puis, mec, tu es au tribunal, ben, tu vas avoir un an d'attente.
J'ai vendu ma propriété à Montréal. On avait une belle propriété, puis elle prenait une certaine valeur, sur le Bas-Saint-Michel, une belle maison, un beau duplex, tu sais, le fun. Mais avec un locataire, on va dire un petit peu malcommode, puis c'était pas un jeune, là, tu sais, c'était un boomer, là, tu sais. Mais il nous rendait la vie impossible. T'sais, il contestait tout le temps, tout le temps, tout le temps. À un moment donné, quand tu sais que tu n'auras pas, c'est pas que tu n'auras pas la loi de ton bord, mais que, t'sais, l'effort, l'énergie, tu comprends ce que je veux dire? Tout ce que ça va te prendre pour aller juste faire valoir tes droits, là, minimum. T'sais, puis qui demandait toujours des améliorations tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais qui ne voulait pas qu'on monte son loyer, par exemple. T'sais, c'était comme, non. Non, plus capable.
Je te
comprends. C'est plate, ça devrait pas être comme ça, mais...
Non, mais c'est trop lourd. L'administration est trop lourde. C'est-à-dire que à partir du moment, si t'es un bon locataire, pas de problème, t'as des droits, etc. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais si t'es un mauvais locataire, un mauvais payeur, un cochon, un pop-up, puis ça sert à poubelle chez vous, puis ça fait suer tous les autres locataires autour, tu sais, il devrait avoir quelque chose qui permettrait au propriétaire d'agir rapidement. Mais là, on leur fait remplir des formulaires, puis ça passe devant la régie, puis la régie, ben là, tu sais, ça prend des preuves hors de tout autre raisonnable, parce que sinon, ben là, écoute, là...
Ah, c'est lourd, c'est lourd, c'est super lourd. Ah. Puis, je veux dire, tu sais, puis je suis sur des groupes de gens dans l'immobilier, mais aussi, tu sais, il y a des locataires qui sont là-dedans, là, tu sais.
Ben oui.
Mais, puis tu vois que c'est...
Mais la majorité des locataires sont corrects, là, on s'entend.
Oui, absolument, tu sais, puis la plupart le sont. T'sais, ah oui. Mais tu sais, tu as toujours cette vision bien québécoise, malheureusement, qui nous a été mise dans la tête que être propriétaire, c'est un capitaliste sauvage puis qui profite des locataires, et etc. C'est juste pas agréable. C'est juste, c'est plus le fun. C'est plus le fun de faire même du business au Québec. Je dis pas que c'est impossible, mais tu sais, tu as cette mentalité de que. Puis vous le savez, tu sais, que. Un propriétaire, c'est un crosseur, puis un homme d'affaires, c'est un crosseur, il veut juste fourrer l'impôt.
Automatique. Regarde, c'est plate à dire, mais si tu fais de l'argent, si tu réussis au Québec,
c'est parce que
t'es sûr. Non, mais t'es sûr d'avoir des commentaires à la semaine longue.
C'est parce que, puis il y a aussi, c'est parce que t'es chanceux.
Hein? Ah oui.
Chanceux. Un entrepreneur est chanceux. Tu as monté ton entreprise, tu t'es pas donné de salaire pendant 3 ans, 4 ans. Tu as travaillé des 100 heures par semaine pour essayer de monter ton entreprise. C'est toi qui prends le hit quand, tu sais. Yeah, je vais te le dire, là. Je pense que je te l'ai déjà dit. Au mois de janvier, là, j'ai une entreprise, je vends des chaises pour des églises, puis des restaurants, mm-hmm. puis des théâtres, puis bon, c'est ma business. Ouais. Stacking Chairs Canada, là, vous regarderez ça. Okay?
Ouais.
Mais Stacking Chairs Canada, là, OK, là, c'est correct. Là. Mais au mois de janvier, tu sais combien j'ai fait de ventes?
Ben oui, mais ça arrive, ça. Tous les entrepreneurs vivent ça.
C'est le début de l'année.
Ben oui.
Puis c'était comme ça. C'est correct, j'en refais, là, tu sais. Mais ça a donné comme ça, là, mon mois de janvier, là. Ouch! Puis à un point où je me suis dit, coudonc, est-ce que le Canada, parce que je vends partout au Canada, est-ce que le Canada est en train d'entrer en récession? Puis je m'en suis... Ben, on le voit, là, mais... Je m'en suis pas vraiment rendu compte tant que ça, là. Wow! Puis, bon, comme je te dis, ça a recommencé, mois de février, tout ça, c'est correct, là, tu sais, tu sais, je respire, là. Mais, écoute, moi, je regardais mon mois de janvier, là, ça faisait peur, là.
Non, mais t'as pas besoin d'économiquement rentrer en récession. On fait peur au monde à tous les jours. Écoute, c'est incroyable. Je regarde les nouvelles, puis je me dis, ces gens-là n'ont pas conscience du mal qu'ils font à l'économie. Ouais. Ça n'a même pas de bon sens. On fait peur aux gens. On fait en sorte que les gens deviennent crispés, que les gens achètent plus rien, consomment plus, etc. Puis ça, c'est une roue qui tourne l'économie. Tu sais, si les gens arrêtent de magasiner, d'acheter, de consommer, bien, à un moment donné, ces entrepreneurs, ces entreprises qui ferment, j'ai jamais vu autant de centres commerciaux avec des locaux vides comme aujourd'hui.
Oui.
Jamais, jamais, jamais.
Oui, non, ça écoute, dans mon coin du Québec, là, à Vaudreuil, okay, mm-hmm. il y avait peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui viennent de ce coin-là, qui vont savoir de quoi je parle. Walmart a fait construire un centre de distribution qui est l'équivalent de, bon, tu sais combien grand c'est, mettons, un Walmart normal, un Walmart Supercenter, là, les gros Walmart. Là. C'est à peu près l'équivalent d'une dizaine de Walmart. Okay? Peut-être 8-10 Walmart, là, en fait, grandeur. Là, je ne sais pas combien de milliers de pieds carrés, là, mais c'est beaucoup. Le building est construit. Il est fini. Walmart finit par dire, « Ouais, ben, non. On ne le mettra pas là, notre centre de distribution. On laisse faire. » Le building est construit. C'est Walmart qui a payé pour le faire construire. Puis il... Non. Pas on le remet, là. C'est on le fera pas. Wow! Fait qu'ils sont prêts à prendre le hit plutôt que d'investir un petit peu plus dans l'économie du Québec. Puis, tu sais, je pense pas, je fais pas partie de ceux qui pensent que Walmart est anti-Québec ou quoi que ce soit. Je sais que Walmart achète beaucoup au Québec, puis je connais plusieurs entrepreneurs.
C'est pas une question d'être anti-Québec.
Entre autres, dans le domaine alimentaire.
T'es dans une province qui pense, t'es au Québec, dans une nation, dans une province qui pense en loser. On éduque nos enfants aux losers à l'école. Le monde, là, ça n'a même pas de bon sens comment on parle aux Québécois comme si c'était tous des attardés mentaux. Au Québec, tu travailles ta petite job, pendant 6 mois par année, l'argent va à toi, les 6 autres mois, t'envoies tout l'argent au gouvernement, tu fermes ta gueule, puis si tu as des restrictions sanitaires, tu restes chez vous, tu fermes ta boîte. Ça, on éduque les populations en losers. C'est sûr et certain, quand tu as des compagnies qui arrivent et qui veulent fighter le marché, etc., ils se disent, voyons donc, on n'installera peut-être pas ça au Québec. C'est plate, mais c'est ça.
Je sais que tu regardes probablement moins la télé anglaise que moi. Là. Je suis dans un univers anglophone ici. Là. Bon. Mais tu sais, il y a une émission que j'aime beaucoup qui s'appelle Shark Tank. C'est l'équivalent des dragons au Québec. Mm-hmm. Bon, probablement que plusieurs d'entre vous connaissaient ça. Là.
Oh, oui.
Puis il y a un personnage que j'aime beaucoup dans Shark Tank, c'est Kevin O'Leary.
Ben oui.
Kevin O'Leary, il est reconnu pour être pas gentil, mais pour dire la vérité. Mm-hmm. Okay? Puis la vérité, c'est jamais très beau. C'est un peu comme Donald Trump. T'sais. Donald Trump, vous pouvez le détester, mais il va vous dire la vérité crue. C'est cru la vérité, mais il va vous dire la vérité. Puis, quand ton entreprise n'a pas d'allure, il va te le dire. Il va dire, pour toi, là, Aymeric, là, pour toi, là, regarde, tu es un entrepreneur. Regarde, je sais que tu as eu plusieurs, tu es peut-être un peu comme moi, tu as eu plusieurs, regarde, moi j'ai une compagnie de chaises. J'ai-tu l'air d'un gars qui rêve dans la vie ou qui a pensé là, pendant sa jeunesse, là, hey, je vais vendre des chaises, je suis passionné par les chaises, c'est tellement ma vie. Non, je vends des chaises parce que ça me permet de gagner correctement ma vie. C'est ça, j'ai pas une passion brûlante pour les chaises, là, OK? Confidence, là. Non. Comme toi, t'as une compagnie de bébites, je pense pas que t'as une passion brûlante pour les bébites.
J'avais.
Bon, tant mieux.
J'avais.
Tant mieux.
Mais non, c'est loin d'être une passion, mais c'est vrai que quand on est en affaires, puis encore là, c'est un autre modèle qu'on essaie de nous inculquer.
Tu dois prendre une distance avec ton entreprise,
oui,
c'est ça que je veux dire.
Oui, mais ils ne vendent pas ça aux gens. Ils vont dire aux gens, ben là, faut que tu trouves ta passion premièrement, puis après ça, tu essaies d'en faire
en même temps, je comprends ça, parce qu'il y a un petit peu de vrai aussi, dans le sens que quand tu fais quelque chose, regarde, moi, ma passion, ce n'est pas les chaises, mais ma passion, c'est le business.
Mm-hmm.
Fait que tu sais, je vais me trouver, si je fais des semaines, admettons, Aymeric, puis je pense que c'est ton cas aussi, si je fais une semaine de 80 heures, je vais peut-être être fatigué un peu. Mais tu sais, c'est ce que tu appelles la bonne fatigue, là, tu sais. Je vais le faire, je vais faire l'extra mille. Parce qu'anyway, si j'ai travaillé 80 heures, ça veut dire que j'ai fait un petit peu pas mal d'argent, tu sais.
Mais dis-moi demain matin qu'en vendant des cure-dents, je vais faire 5 millions par année, puis demain matin, je me mets à vendre des cure-dents, je
plante. Absolument, c'est ça. Puis tu vas te trouver une passion pour les cure-dents, tu sais.
Ah,
tu
vas me gratter les oreilles, là. Ben oui.
Ah, tu sais, c'est comme, veux pas, regarde, si vous voulez me parler de la science des chaises, là, regarde, moi, je peux te parler pendant 1 heure de la science des chaises. Pourquoi une chaise dans un McDonald's? Tu sais-tu, regarde, tu vas comprendre où est-ce que je veux venir.
Oui, là, on jase. On est rendu à l'heure où on jase.
Oui, on jase. Mais anyway, on a-tu une limite de temps? Là, on n'est pas, bon.
Non, ma femme.
Tu sais, juste, on parle de parler, là. Tu sais, regarde. les gens m'appellent, puis tu sais, je leur dis en anglais, tu sais, there is such a thing as chair science. Tu sais, puis il y a une telle chose que la science des chaises. Ah oui, ben oui. Si t'es dans, regarde, par exemple, dans les églises, au Québec, on est habitué aux églises catholiques. Combien de temps dure une messe?
Ben, ça doit être une
demi-heure, trois quarts d'heure.
Une heure, ouais, maximum. Ouais.
Dans le maximum, puis à Noël, tu sais, d'un gros, à Pâques, tu sais, d'un grandes occasions. OK? Tu as remarqué les sièges dans les églises, des sièges en bois. C'est dur pour les foufounes. C'est dur pour les foufounes.
Moi, mon grand-père m'obligeait à aller à l'église avec lui quand j'étais jeune. Écoute, je détestais ça, oui, parce que t'es assis comme...
T'es assis sur un banc qui est dur, puis tu sais, c'est dur pour les foufounes. Puis en plus, tu sais, tu sais comment ça marche, tu sais, il faut que tu te lèves, il faut que tu te mettes à genoux, puis tu sais, même les trucs, tu sais, pour les genoux, c'est pas toujours méga confortable, puis ben, en tout cas, tu sais comment ça marche. Les églises, par exemple, ici aux États-Unis, les églises protestantes, baptistes, pentecôtistes, tu sais, ils ont peut-être les dénominations possibles, les synagogues, parce que je vends des synagogues, je vends à tout le monde, tu sais. Eux, leur messe dure un petit peu plus longtemps. Fait que sur un banc en bois, faire une célébration de 3 heures, c'est no way. Parce que, tu sais, ils vont chanter, tu sais, comment c'est les messes gospel, puis tout ça. Moi, j'ai beaucoup de clientèle, tu sais, des noirs, puis des latinos, puis ils aiment ça, aller dans la messe, puis ils sont habillés. Écoute, tes voix, là, le dimanche, ils sont tatriqués. Moi, je vais jouer au golf avec mon fils. Là.
Oh,
je les vois, là, tu sais, ils sont tatriqués, puis, tu sais, c'est correct. Moi, j'aime ça. Je trouve ça cool.
Ah, non, mais ça, c'est le genre de place où je trippe, moi.
Absolument. Puis j'essaie.
Ah oui, gospel, les noirs aux États-Unis. Yeah,
ma femme et mon fils ne sont pas du tout pratiquants. Moi, un petit peu plus. Là. Ah, j'essaie de les amener pour leur dire, tu sais, aux États-Unis, il va falloir y aller à l'église parce que les réseaux sociaux, ton réseau local se bâtit beaucoup là-dedans. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que. Puis tu vas voir où est-ce que je rejoins toute l'histoire de la business. C'est qu'avec le temps, puis pourquoi je parle des églises, c'est que. Pourquoi tu penses que les églises pentecôtistes ne prendront pas des bancs en bois? Parce que les gens vont à la messe pendant 2 heures puis 3 heures. Quand tu vas dans un McDonald's, c'est quoi que Monsieur McDonald, Ronald McDonald veut de toi? C'est que tu manges ton Big Mac puis décalisse. Reste pas. Les petits vieux qui têtent leur café, on ne veut pas qu'ils restent 3 heures. Allez-vous-en. Alors, comment je peux dire à tes foufounes votants? C'est en mettant un siège que tu es confortable dessus pour 20 minutes, manger ton burger, prendre ton café, puis décolisse après. Va-t'en. Il faut que tu libères la place. Il faut, tu sais, dans termes de restauration, c'est comme tu appelles ça ton roulement. Combien de fois je suis capable de rouler ma salle à dîner pendant une soirée? Tu sais, normalement, il faut que je sois capable de faire minimum 2 services. Peut-être 3, si je fais, tu sais, si tu invites les petits vieux à venir souper à 4h30, 5h.
J'étais serveur d'une cabane à sucre quand j'étais jeune, puis les chaises étaient tellement inconfortables, on pouvait faire 3 sets de personnes durant le dîner, 3 sets de personnes durant le souper. Il n'y a personne qui voulait rester assis, tout le monde allait danser.
Ben c'est ça, puis si tu es capable de faire, pense-y, une cabane à sucre ou dans un restaurant, si tu es capable de faire 6 services, c'est la grosseur de ta salle. Fait que si ta salle, je mets un chiffron, t'as 100 personnes, mais tu fais 600 personnes dans ta
salle. Ça devait être payant. Il y avait à peu près 1000 places. Non, mais il y avait 1000 places assises. On faisait au moins 4, 5, 6 services par jour, 1000 places assises. Puis le monde payait 20 quelques piastres cash. Il prenait pas une carte. Et ça devait être payant.
Puis dans le cabane à sucre, est-ce que tu mets des sièges confortables? Ben non, tu mets des bancs en bois parce que faut que ça roule. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, quand je te dis, il y a une science des chaises, puis le contraire, c'est si t'as un restaurant est plus aisé, tu sais, ça va te coûter 200$, tu sais, plus, tu sais, bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens... Parce que sur quoi tu fais de l'argent sur ton restaurant? Tu le fais sur tes desserts, sur ton alcool. Donc, tu veux que les gens restent, mais pour qu'ils restent, il ne faut pas qu'il y ait un banc en bois, il faut qu'il soit confortable, c'est pas un banc de McDonald's. Fait que là, je vais te vendre une chaise confortable, puis je vais te parler du confort de la foufoune. c'est sûr, c'est là. T'sais.
Écoute, tu viens quasiment nous donner le goût de vendre des chaises, là, arrête.
Ben, c'est le genre de. C'est là que je trouve ma passion, puis que les gens voient que, tu sais, OK, Jeff, il connaît ça. Ben oui, je connais ça, c'est juste le gros bon sens. Donc, tout ça pour dire que je reviens à Kevin O'Leary, que je vous parlais tantôt, hein, j'ai fait j'ai passé par plusieurs détours à Saint-Constant, puis tout ça pour aller à Cabane à Sucre, à Saint-Bruno, puis bon. Fait que, pourquoi je vous dis ça? C'est que lui dit la vérité. Fait que si, Émeric, t'as une business, tu y crois à ta business, mais que ta business là te mange parce que tu es trop passionné de ton business, OK? Ton business te mange, puis tu te dis, il faut que je réussisse, tu vas réussir, puis bon, tu comprends? Mais que ce business-là est en train de t'emporter avec lui, là. Il est en train, tu comprends, il est en train de te bouffer toutes tes économies, il est en train de te bouffer ta vie, il est en train de te bouffer ta famille. Lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il va dire, prends ton business, amène-le en arrière de la grange, tire-les dans la tête. Libère-toi de ce business-là. Tu es un entrepreneur, va faire d'autres choses. Prends-toi une autre forme de business. Vas-y, sois entrepreneur, c'est correct, mais ton modèle de business que tu as là, c'est un mauvais modèle. Mais au Québec, quand tu as des entrepreneurs, je reviens à l'émission typique des entrepreneurs au Québec, les dragons.
Non, au Québec, mais non, on va les bourrer le financement, puis on va mettre l'argent public là-dedans.
C'est que tu vas avoir, comment elle s'appelait la madame, là? Danielle Henkel.
Oui.
Qui va dire, t'es bonne, continue, c'est ta passion. Non! Si ton business, c'est de la merde, continue pas, ça va te tuer, ce business-là. Continue pas, tu vas mourir. T'es malade, c'est pas bon. Ça détruit ta famille, ça détruit ta vie. Fais pas ça. C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Puis c'est pas, tu sais, t'as des gens qui sont, comment je peux dire ça, qui sont plus résistants au risque, on va dire ça comme ça. Il y en a d'autres que quand en business, tu vas faire, en anglais, ben, je pense que c'est une expression en français qui est, tu sais, the path of less resistance, le chemin qui a le moins de résistance. Je pense que c'est comme ça qu'on dit en français.
De risque.
Bon, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu choisis le chemin qui a moins de résistance, mais c'est peut-être pas nécessairement bon. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas tout le monde qui a la même résistance au risque. Puis il y en a qui vont...
Non, puis il y a aussi des gens qui sont faits pour être des employés. Là. Attends, on va se dire la vérité. Là. Il y a des gens qui jamais vont se lancer en affaires puis qui sont heureux, entre guillemets, comme employés, puis c'est correct aussi. Là. Je pense que...
Écoute, je devrais pas parler comme ça, mais on est entre nous, on se fait des petites confidences. Oui.
Il n'y a personne, juste sans...
J'ai quelqu'un dans ma famille qui travaille à la SAQ. OK? Ouais. Puis, il est bon.
SAQ ou SA?
La SAQ. Pas la SAQ, à la SAQ. Il vend du vin. Okay? OK? Il vend de l'alcool. Puis, il est bon. Écoute, il travaille là depuis... Il est un petit peu plus jeune que moi.
Il aime le vino?
Oui, mais il travaille là depuis, je te dirais, peut-être un peu 1990. Fait que ça fait 30 ans là, qu'il est 30 plus que ça, là, 34 ans qu'il est là. Il est sur le bord de la retraite, là, forcément. Lui, là, il a tout pour devenir importateur, pour se partir sa business et faire beaucoup d'argent. Il connaît tous les distributeurs, il a travaillé à plusieurs SAQ, dont elle à Outremont, où tu es. Dans le fond, tu connais tout le monde quand tu es dans la salle d'Outremont. Tu connais tous les grands acheteurs de vin parce que tu étais à Outremont. Tu comprends ce que je veux dire, les bons? Il a tout. Il connaît tout le monde, tous les importateurs, tout ça. Mais c'est pas un entrepreneur. Il a peur. J'aime pas dire ça, mais en même temps...
Il attend après sa retraite. Il y a du monde
dans ça.
C'est correct aussi, moi, je n'ai rien
compris. Ben, c'est correct. Ça...
Bon, ça ne tente pas. Lui, il aime sa job, il aime sa paye stable.
Oui, mais c'est sûr qu'il aimerait faire plus, mais en même temps, il y a un confort dans le fait d'être à salaire. Puis, c'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, mais...
Mais moi, je ne l'ai jamais compris parce que...
Je peux concevoir que des gens sont...
Même quand j'ai travaillé pour quelqu'un, j'avais un emploi à pourboire, à l'effort. Donc, je faisais même à ce moment-là ma paye. Wow.
Écoute, puis, tu sais, des fois, puis je dis, tu sais, on va l'aider, tu comprends ce que je veux dire, tu sais, on va l'encourager, tu sais, go, mais en même temps, c'est peut-être qu'on ne lui rendrait pas service parce que peut-être qu'il serait malheureux comme une roche, tu sais, Puis probablement qu'il serait malheureux comme une roche.
Non, mais dis-toi que ce gars-là, il a passé 34 ans. Non, mais c'est un monsieur-là que je connais pas. Il a passé 34 ans de sa vie salarié. À 4 heures le soir, il s'en va chez eux. Il n'y a plus rien d'autre à penser.
Ouais.
Puis là, tu veux le mettre dans un stress qui est un stress. Être en affaires, c'est un stress. Moi, le monde qui dort mal, c'est souvent des entrepreneurs. Puis,
non, c'est sûr.
Puis tu sais, je comprends la position de ces gens-là qui sont dans leur confort salarial, puis c'est correct. Puis je comprends la position des entrepreneurs qui veulent se prouver à eux-mêmes aussi à quelque part. Donc, il y a les deux. Moi, je sais pas. Puis ça prend les deux. Il y a pas d'entreprise sans employé, puis il n'y a pas d'employé sans entreprise. Donc.
C'est ça. Comment on pourrait trouver des employés si,
non,
si
tout le monde voulait être entrepreneur? Tout le monde avait une business. Mais il y a jamais eu, et ça, c'est les chiffres officiels de l'INSPQ, je pense, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs, aussi peu d'entrepreneurs au Québec qu'aujourd'hui.
Puis c'est capoté pareil, parce que, pense-y comme il faut, le Québec change, et il y a quand même beaucoup d'immigrants au Québec. Puis quand je dis immigrants, beaucoup le voient négativement, puis je peux comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas qualifiés parmi les immigrants, c'est plate à dire. Certains le sont, puis ils ne sont pas reconnus, ça c'est une autre connerie. Mais bon, on en parlera une autre fois parce que ça finira plus. Mais là-dedans, tu regardes les communautés qui émigrent au Québec, beaucoup d'Indiens d'Inde, c'est des entrepreneurs. Beaucoup de Maghrébins, ils ont une culture d'entrepreneur, on va dire ça comme ça. Ils ne sont pas tous, parce que ceux qui arrivent ici, ben, au Québec, malheureusement, ne sont pas tous méga bien éduqué. Puis quand je dis éduqué, je parle peut-être du minimum là, nécessaire, je pense, pour être entrepreneur. Là. Je pense pas que tu as besoin d'un degré universitaire, mais tu comprends ce que je veux dire. Pour être entrepreneur, il faut que t'ailles, tu sois, comme on dit en anglais, streetwise.
C'est certainement pas dans nos écoles woke d'université du Québec où tu formes des entrepreneurs, tu formes des féministes, tu formes des LGBTQ plus YZ, tu formes tout ça, mais tu formes pas des entrepreneurs dans nos écoles au Québec, ça c'est faux là. Tu formes des fonctionnaires, tu formes des gens avec une mentalité de fonctionnaire dans nos écoles.
Ben moi je veux dire une affaire, regarde, mon gars est à côté de moi, il est en train de jouer à l'ordinateur là, dans la cuisine. Puis là on est en train de regarder ses choix à l'université là. Puis je vais te dire une affaire, là, ben là, c'est pas pire parce qu'il y a comme son chemin, c'est qu'il veut être probablement ingénieur mécanique. Ça veut pas dire qu'il va faire ça dans la vie longtemps, mais au moins, ça va l'asseoir sur quelque chose. On travaille, mais on habite dans un domaine où l'aérospatial, la NASA, c'est à côté d'ici, puis bon, tout SpaceX, tout ça, c'est tout autour d'ici. D'ailleurs, vendredi, on va aller rencontrer les gens de cette industrie-là qui font un genre de rencontre pour les finissants là, de son école secondaire pour regarder les possibilités d'emploi et même les bourses qui sont offertes pour les gens qui veulent s'en aller dans que soit que tu veux être astronaute, soit même artiste, tu sais, dans ce domaine-là, parce qu'ils ont besoin d'artistes aussi. Mais tu sais, ingénieur mécanique, bon, tout ce qui est périphérique à l'aéronautique bon. C'est cool. Ça, je suis content de ça. Je suis content. Puis tu sais, au moins, tu vas être un employé. Mais dans le fond, des conversations que j'ai avec mon fils, puis je sais pas ceux qui sont en âge d'avoir des ados maintenant, je pense que toi, ça va t'arriver bientôt.
Pas de suite.
Les conversations que j'ai souvent avec mon fils, je pense qu'il va être entrepreneur. Puis il veut être entrepreneur.
Il a été éduqué par un entrepreneur.
Oui, puis il y a probablement beaucoup de ça aussi. Je pense, tu sais, c'est beaucoup d'entrepreneurs de père en fils, de mère en fille. Là. Je pense que il y a beaucoup de ça. Parce que sinon, pourquoi on dirait, tu sais, je vous donne un exemple qui est très, très commun au Québec. Pourquoi les Grecs sont tous dans la restauration pratiquement? Tu sais, pourquoi les Italiens sont tous soit dans la restauration, dans la construction? Tu sais, pourquoi, tu sais... Mais c'est parce qu'il y a une culture de père en fils que c'est comme ça, tu sais. Ouais, c'est juste ça. Fait que tu sais, t'as raison. Je pense qu'au Québec, il faut qu'on forme davantage. Pas nécessairement former des entrepreneurs, parce qu'encore une fois, former des entrepreneurs. C'est où à l'école que tu vas pour être entrepreneur?
Et non, non, mais.
Entrepreneur, je suis entrepreneur.
Non, il n'y a pas d'école pour ça dans ma tête à moi. Il n'y a pas un diplôme pour ça. Moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est inné. Là, tu l'as ou tu ne l'as pas. Mais au Québec, c'est pas le problème, c'est que il y a aucun avantage à créer de la richesse au Québec. Il y en a pas d'avantage. Il y en a pas d'avantage fiscal. Il y en a pas d'avantage au niveau de la perception de tes pairs. Il y en a pas d'avantage. Il y en a pas d'avantage.
Penses-tu là, qu'au lieu, bon, là, c'est pas pire, ils viennent d'enlever ce cours-là, là. C'est dommage parce que mon fils l'a eu pendant tout son cursus scolaire. Le fucking éthique et culture religieuse, là.
Oui, oui, oui.
Cours qui sert à fuck all, là. Mais, tu sais, si on leur avait donné juste un cours avec des notions d'économie, des notions. Tu sais, comment, par exemple, faire tes impôts, utiliser ton crédit à bon escient, te bâtir ton crédit, comment dealer avec les banques. Tu sais, juste des petites affaires niaiseuses de même. Là.
Ben oui.
Qui ne fait pas partie du tout de l'ADN des Québécois.
Mais non, on est rendu avec les jeunes les plus. On a une génération de jeunes parmi les plus endettés en Occident. Les jeunes à 16 ans, c'est carte de crédit, si ça, carte de crédit. Puis là, ils arrivent à 22, 23 ans, crédit scrap. Ils n'ont pas d'argent pour payer l'ensemble des dettes qu'ils ont créées. Mais il n'y a personne qui. Moi, en tout cas, je me suis jamais fait dire à l'école. Ton crédit, c'est la chose la plus importante en finance que tu vas avoir pour être un outil pour ton futur. Mais je ne savais pas dire ça, là. Ben, c'est vrai. Absolument vrai. Mais il n'y a jamais personne qui m'a dit ça. Hey, ton crédit, check ça. Dans ta vie, c'est important. Jamais personne qui m'a dit ça.
Je veux dire, là, tu sais, regarde, je viens d'arriver aux États, là. Puis je suis comme un peu. Faut que je refasse mon crédit, là.
Bon, ben oui.
C'est correct, on va le refaire, là, mais. À 56 ans, faut que je repasse mon crédit pratiquement à zéro. Là,
moi, quand je suis arrivé en Colombie, ça m'a pris. Écoute, j'ai pas les dates, là, mais moi, je suis arrivé en Colombie, j'ai vécu au total, peut-être au total des dernières années, des derniers 8 ans en Colombie, pas mal. Puis, j'ai eu pas ma citoyenneté, mais l'équivalent. Là. Puis, ça a dû m'avoir pris 4 ans comme du monde en payant tout parfaitement pour avoir un prêt. Une carte de crédit assez élevée, etc.
Ben, c'est pas si pire.
J'ai trouvé ça long, moi.
Non, mais tu sais, considérant que tu pars de zéro, puis bon.
Ouais. Mais 4 ans quand même.
Ouais. T'sais?
Mais, bon, mais c'est ça qui est ça.
Mais c'est pour te dire, regarde, en tout cas, j'espère, puis tu sais, moi, je pense pas qu'on va changer, la vie de personne à soir, mais si on peut au moins, je sais pas, mais on va dire éveiller des consciences. Sur le fait que l'affaire que ça prend le plus au Québec, avant tout, là, c'est des entrepreneurs. Parce que si tu n'as pas d'entrepreneur, tu n'auras jamais de richesse.
Ben non.
Tu n'auras jamais de richesse.
Il faut arrêter aussi, puis ça, écoute, c'est un sujet que je pensais pas parler de ça ce soir, mais tu as raison. Il faut arrêter aussi de démoniser ceux qui font de l'argent. Faire de l'argent, c'est une chose. De l'argent, c'est pas nécessairement mal. Faire de l'argent, c'est pas nécessairement crosser, c'est pas nécessairement voler. Mais on est tellement habitué d'avoir eu juste des politiciens qui nous ont crossé puis volé des...
Regarde, on va boucler la boucle avec le discours de Biden. Il a parlé d'une chose pendant son discours, puis ça m'a fait dresser les cheveux sur la tête. Il parlait de ces millionnaires / milliardaires. Il faut qu'ils payent, comme on dit en anglais, leur fair share, leur juste part. Il faut qu'ils payent. Puis là, ils nommaient, tu sais, les taux d'impôt, blablabla, tout ça. Mais il y a quelque chose que nos amis socialistes oublient. Puis, tu sais, la vie est injuste. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a rien qui vous est dû. La vie est injuste. Accepte ça en partant. Tu sais, demain, tu vas peut-être avoir le cancer. C'est plate, c'est comme ça. La vie est injuste. Tu sais pas pourquoi, demain, ton gars peut se faire écraser par un char. La vie est injuste. C'est comme ça. OK? Accepte ça. Tu comprends ce que je veux dire? Accepte que la vie est injuste. C'est la réalité. OK? Mais à partir du moment où tu acceptes ça, puis que tu te rends compte que la personne qui est riche, il y a une chose qu'elle est que toi, t'es... Ben, quand je dis toi, tu comprends, les gens qui nous écoutent, là, c'est quelqu'un qui est riche, à la Elon Musk ou tout ça, tu es mobile. Tu peux aller où ce que tu veux. Fait que si tu n'es pas heureux au Québec parce que les taxes sont trop chères, tu te décalisses, puis tu t'en vas t'installer ailleurs.
Mais je vais dire une confidence. Oui, ben, je vais faire une confidence là-dessus. Jeff et moi, on a une société en construction en Floride. Puis, je regardais cette semaine notre taux d'imposition qu'on va avoir. 5,5%. Écoute, c'est jouissif de payer ça, 5,5% d'impôts.
Oui, tu le payes quasiment avec plaisir.
Non, 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 mais tu fais ton chèque, tu te dis, ben écoutez, là, on peut-tu vous apporter une bouteille de vin, quelque chose? 5%!
Ouais. Ça, c'est la première chose. Puis l'autre chose, c'est qu'encore une fois, quand je regarde le discours, je ne dis pas que c'est exclusif au Québec. Tu le vois aux États-Unis aussi chez nos amis socialistes.
Oh oui,
dans certains États. C'est au Québec parce que le Québec est très, très socialiste. Oui. C'est oui, mais les entreprises ne payent pas. Payent pas d'impôts. Émeric, tu veux que les entreprises ne payent pas d'impôts.
Non, non, mais...
Puis je vais te dire pourquoi.
Les grandes entreprises...
Une entreprise, c'est un procédé pour créer de la richesse. Puis créer de la richesse, c'est pour tout le monde. C'est une entreprise, c'est un processus. Parce que vous, vous confondez entreprise et dirigeant de l'entreprise. Non. Taxez-les les salaires, si vous voulez. Puis les salaires, j'entends aussi les dividendes. C'est correct. Taxez ça, si vous voulez. Mais taxe pas une entreprise. Quand tu taxes une entreprise, tu es en train d'empêcher l'entreprise d'investir dans la recherche, dans ton économie, dans des nouveaux employés, dans des nouveaux locaux, dans des n'importe quoi qu'une entreprise fait, t'empêche l'entreprise d'investir dans ton économie, puis tu dis le gouvernement est mieux placé que la population pour investir dans l'économie.
Okay? Ouais, mais pour avoir les... Attends une minute, là. Pour avoir comme entreprise, pour avoir les moyens de payer très peu d'impôts, il faut que tu sois extrêmement riche parce qu'il faut que tu aies les meilleurs fiscalistes. Un. Deux. L'économie entrepreneuriale au Québec, par exemple, est basée de coiffeuses, pizzerias, petites et moyennes entreprises. C'est de tout ça dont l'économie des affaires est basée au Québec à 95%. C'est des petites et moyennes entreprises. Puis c'est eux autres qu'on fait suer. C'est eux autres que le gouvernement veut tuer. C'est les petites et moyennes entreprises. On est, ces entreprises-là sont bombardées de paperasse, sont bombardées de permis, sont bombardées de taxes, bombardées d'impôts, bombardé de législation, on veut au Québec tuer la petite et moyenne entreprise alors que c'est le cœur de l'économie québécoise. Puis c'est le plus gros employeur au Québec, c'est la PME.
T'as raison.
Et ça, à un moment donné, ça fait suer de bâtir quelque chose au Québec.
Et je croyais que avec un gouvernement de la CAQ, on arriverait à quelque chose d'un petit peu plus business friendly.
Pas en tout.
Puis pourtant, tu as des entrepreneurs. Le premier ministre, encore une fois, le premier ministre, c'était pas nécessairement un entrepreneur.
Non, non.
Parce que, tu sais, on dit oui à Transat. Non, non, mais c'est pas lui, c'est Jean-Marc Eustache. Là,
c'est ça.
Lui, c'est un investisseur dans la Transat qui a fait rouler son investissement puis qui s'est retiré au bon moment. OK?
Oui.
Encore là, c'est correct. Je veux pas frapper dessus. Ça prend des gens comme Legault qui sont des investisseurs. C'est bien correct. Mais c'est pas un... Pierre Péladeau, c'est un entrepreneur. Puis je te dirais quelque part, Pierre-Carl Péladeau, c'est un entrepreneur.
Mais Pierre Péladeau, il faut le rappeler, il a parti le Journal de Montréal avec 1 000 $.
Oui.
Pierre Péladeau avait 1 000 $.
Pierre-Carl a hérité, mais je veux te dire une affaire, dans le monde des médias maintenant, qui est coupe-gorge, regardez ce qui est devenu La Presse, qui est plus de journal papier, puis tout le reste des médias, vous savez où est-ce que c'est. Il a réussi, qu'on soit d'accord ou non avec le contenu éditorial, c'est pas de ça que je parle.
Non,
mais il a réussi à faire de Québécois dans les années 2000, à l'intégrer comme il faut avec la télé, l'Internet, puis toutes les
vidéos périphériques.
Puis il a réussi à en faire quelque chose de correct. Puis, quelque part, quand il y a eu la grève au Journal de Montréal, il a mis beaucoup de journalistes qui se croyaient essentiels à leur place.
Mm-hmm.
J'ai pas haï ça non plus.
Non, non, mais t'as raison, mais tu sais, Pierre-Carl a été aidé avec la Caisse de dépôt, Pierre-Carl a été aidé, tu sais, c'est pas nécessairement la même histoire qu'un gars comme toi puis moi qui demain matin lancerait une entreprise. On serait pas autant aidé par le gouvernement. Puis quand tu veux être aidé...
il s'est servi des outils qui étaient à sa disposition. Je peux pas, tu sais, autant, regarde, il a été chef du Parti québécois qui est pas vraiment avant, mais regarde, c'est correct, j'ai pas...
Non, mais je l'ai pas,
j'aurais plaisir à discuter avec ce monsieur-là, parce que je sais qu'on je sais qu'on pense un petit peu pareil. Là,
ben, je pense que c'est un gars de droite économique.
Assez... Probablement, oui.
Oui, pas mal, pas mal. OK, là, c'est vrai. Merci. Je vous embrasse.
Il y a Patrick qui écrit « Intégrer comme il le faut, Vidéoé ». Je pense que Vidéoé, je ne suis pas sûr que c'était pendant le règne de Pierre Carl. Vidéoé, c'était dans les années 90, dans le milieu des années 90. C'était pas le... Malgré que... En tout cas, ça a amené l'Internet chez Vidéotron.
Ça, Vidéotron. Aujourd'hui, ce qui finance le Journal de Montréal, ce qui finance TVA, ce qui finance LCN, c'est Vidéotron. Là. C'est la, la vache à lait, c'est Vidéotron.
C'est sûr. Ben, Vidéotron Internet, oui.
Ouais. Salut! Salut,
à bientôt.
Au revoir. Jeff Plante en direct de la Floride. Très chanceux d'être là. Malgré qu'il commence à faire pas si pire au Québec. Aujourd'hui, c'était pas si pire. 8 degrés dans la grande région de Montréal. Merci beaucoup d'avoir été là, mesdames, messieurs. La semaine passée, on a fait une petite émission. Cette semaine, on a fait une très grosse émission. Donc, d'après moi, ils couperont pas mon salaire. Semaine prochaine, émission spéciale. On va être en direct. Et pour ceux que ça intéresse, vous pourrez venir nous voir. Semaine prochaine, on va être en direct du Conseil municipal à Saint-Jérôme. Émission spéciale, mesdames, messieurs, en direct du conseil municipal des Portes du Nord, Saint-Jérôme. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que c'est une information privilégiée que j'ai eue, mais il y a un très gros scandale qui va sortir à la ville de Saint-Jérôme la semaine prochaine, ce qui pourrait ébranler le maire. Donc, la semaine prochaine, on sera en direct de là pour couvrir le tout. C'est une invitation qui m'a été faite et je l'ai acceptée. Merci d'avoir été là. Au revoir.